Bonjour. Je ne suis pas habitué à parler dans un micro, donc il va falloir que je m'entende. Donc avec les retours, ça va être un peu particulier. Donc on est là ce soir pour parler un petit peu de l'identité numérique et de la confidentialité sur le web. Alors c'est un sujet vaste. Vous vous doutez bien qu'en une heure, on ne fera pas le tour de la question. Et je pense que même en une journée, on ne ferait pas le tour de la question. J'espère qu'en une vie, on y arriverait, malgré tout. Alors c'est un sujet qui est assez récent, qui est porteur, ça pose plein de questions. Donc on va essayer, nous, d'y répondre. Je vais voir comment on va organiser ça. Hein. Pour moi, c'est un peu un début, c'est une première conférence, je ne sais pas trop comment gérer ça, mais c'est un sujet qui prête plutôt à débat. On a tous notre expérience, on a tous notre recul là-dessus, et je pense que chacun a peut-être quelque chose à apporter sur ce sujet-là. Donc moi, je vais vous apporter mon savoir, mes quelques connaissances. Et si possible, mes quelques solutions. Et puis à partir de là, vous aurez des questions, vous pourrez me les poser quand vous voulez. N'hésitez pas à lever la main, même si je suis en train de parler. C'est pas gênant. Je veux dire, la question, quand elle vient tout de suite, n'hésitez pas à me la poser. Alors bien sûr, qu'on ne fasse pas un débat pendant une heure et demie, mais faut pas hésiter. Voilà, je vous le dis. Alors juste une question toute bête. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent déjà dans le web? De près ou d'un petit peu plus loin, on va dire. Non, personne? Bon, on va voir comme ça. Donc déjà, je pense qu'il y aura plus de choses à apprendre dans ce cas-là. Donc, il y aura des sujets qui vont être rigolos. Alors, j'ai essayé de traiter ça. Hop, si ça avance, voilà. En plusieurs parties. Donc, on va déjà parler de sécurité web, en général. De manière générale, on va voir qu'on rentre dans ce cadre-là. Puisque bien sûr, quand on va se protéger nous-mêmes, on fait partie de la sécurité en général. Donc je vais parler de ça rapidement, parler de la notion bien sûr d'identité numérique et de ce qui en découle, ce qu'on appelle le personal branding. Ensuite, on parlera du web 2.0, un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ce sera très rapide. Un petit peu du droit, puisque c'est associé à ça. Et bien sûr, quelques clés pour gérer. Alors vous verrez, il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Comme je dis souvent, la meilleure protection sur le web, c'est de ne pas y être. Assez simple. Si on n'est pas dessus, on ne risque pas de nous attaquer. Voilà. Moi, si je vois un couteau loin, je ne vais pas aller me planter dessus pour dire « Aïe, ça coupe ». En général, j'essaye de l'éviter. Ben là, c'est un peu pareil. Donc, on n'a pas de secret. Il va falloir juste essayer d'être un peu plus vigilant, un peu plus malin. Il ne faut pas oublier une chose, on est dans une société qui n'est pas non plus la plus respectueuse du monde. Et dès qu'on peut faire mal à son voisin, on ne gêne pas. Donc, sur le web, on est tous des voisins, donc c'est super. Comme ça, on peut tous s'attaquer. C'est un vrai bonheur. Alors, la sécurité en elle-même, à quoi elle touche? Donc, j'ai bien parlé de la sécurité ici sur Internet. Internet, c'est l'ensemble de la toile. Le web, c'est un seul service de ça. Dans les autres services d'Internet, on va avoir par exemple l'email, la messagerie, vous voyez tout ça. Donc, Internet, c'est vraiment, ça englobe tout. Dans les protections qu'on doit effectuer, ça va être bien sûr la protection de nos données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. On a une double vie sur Internet. Tout ce qui va être les informations donc relatives aux autres utilisateurs d'un site. Donc demain, vous gérez un site, vous êtes responsable des autres utilisateurs qui sont inscrits sur votre propre site. Donc si vous faites n'importe quoi, tant pis pour vous, entre guillemets. Donc ça, il faudra y penser. On va également parler de ce qu'on appelle les portes dérobées. Alors, comme personne n'est dans le web, je pense que personne n'a fait de piratage ici. On a ce qu'on appelle en piratage les backdoors, les portes qui sont donc cachées par l'arrière, et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans les PC à distance. Voilà, j'en connais quelques-unes, ça, et les bons hackers en connaissent. Voilà, je peux faire plusieurs écarts de doigts comme ça. Donc en gros, je fais partie des hackers qui sont là par rapport à ce qui existe. Donc en gros, je pense que tout ça, eux, ils pourraient le casser en 2 minutes. En gros. Alors. À côté, on va avoir bien sûr tout ce qui est fermeture des accès au réseau, aux ordinateurs, et bien sûr à nos comptes. Donc, je pense notamment aux réseaux sociaux. C'est bien sûr ce qui est le plus courant actuellement. Donc, c'est vrai que j'ai pas voulu centrer la conférence sur les réseaux sociaux pour une simple et bonne raison, c'est qu'à côté de ça, on a d'autres comptes. On n'a pas seulement les réseaux sociaux, nos comptes mail. Et ainsi de suite, on peut être attaqué de partout. Donc je me suis dit que c'était plus intéressant de prendre un petit peu plus large. Les experts, il en existe en sécurité web, on en a quelques-uns à Poitiers notamment. Leur rôle, c'est bien sûr de faire respecter la loi, que eux la respectent, mais surtout que les autres la respectent pour nous. Donc ils vont devoir faire attention à ce que la vie privée soit respectée, qu'il n'y ait pas de diffamation, qu'il n'y ait pas de choses comme ça, et bien sûr qu'on n'entre pas dans les PC à distance. Donc à nous de gérer tout ça. Sur le principe, ça peut paraître simple, on verra que c'est un petit peu plus compliqué dans les faits. Alors, j'apporte juste quelques bases sur la sécurité informatique, rien de transcendant. Mais comment on pourrait, par exemple, protéger son ordinateur ? Bah, le truc tout bête, on installe un antivirus. Alors ça, jusque-là, on le sait tous. Alors, je vais faire partie peut-être des exceptions. Je n'ai pas d'antivirus sur mes PC. Voilà, donc vous me direz, il est un peu fou. Il nous dit de le faire et il n'en met pas. Alors, tout simplement parce qu'un antivirus, ça bouffe la moitié de la ressource d'un PC. Donc, ça me gêne déjà. Moi, j'ai envie de travailler et pas de tout donner à mon antivirus. Je l'aime beaucoup, mais j'ai mes limites. Et puis, en plus de ça, quand on a une bonne méthode, quand on fait attention où on va, sur quel site on surfe ou autre, en général, bah c'est un peu comme le couteau de tout à l'heure, on l'évite. Donc normalement, ça passe. Donc on peut très bien vivre sans antivirus, je vous l'assure. Je pleure parfois, mais je m'en remets. C'est pas gênant. Donc à côté, on va avoir les attaques liées au web. Alors les gens font souvent la confusion entre les deux. Le virus, c'est très rare. On a très très rarement des virus. Parmi les plus connus, il y en a un qui porte un nom à peine entendu, Tchernobyl, par exemple. Donc, à la date de Tchernobyl, il vous fait sauter les premiers secteurs de votre disque dur et vous le fait planter. Voilà, donc ça, c'est un exemple de virus. Ça, c'est un virus au sens propre. Ce que nous, on attrape le plus souvent par le web, c'est ce qu'on appelle des spyware ou des malware. Donc, on va donc installer des anti-spyware et des anti-malware. C'est plus ces outils-là qui vont nous aider. Donc ça, faut pas hésiter, il y en a plein des gratuits qui sont très très bien, et c'est vraiment ça qui va vous taquiner à longueur de journée. Vous savez, toutes ces pubs qui s'ouvrent sans arrêt. Vous savez, je sais pas, ces petits mails de temps en temps qui viennent vous taquiner, et ainsi de suite. Ça, c'est des spyware. Donc c'est plutôt ça qu'on va éviter. Alors nettoyer fréquemment son ordinateur, bon bah c'est comme tout, essayer d'enlever tous les petits logiciels espions, toutes ces choses-là qui pourraient traîner. Faut le faire de temps en temps. Donc là, les antivirus le permettent, les anti-spyware le permettent, mais on a aussi dans nos Windows, je pense que les trois quarts sont sous Windows, des petits logiciels qui nous permettent de le faire. Alors je suis désolé pour ceux qui sont sous Mac ou sous Linux, je n'ai pas, donc je ne vous dirai pas de nom de logiciel. Hein. J'ai rien contre eux, hein, mais je n'ai pas. Et puis bien sûr, après, la dernière phase de la sécurité, c'est nous et nous-mêmes, les pseudonymes qu'on choisit. Les images qu'on choisit, les comptes sur lesquels on va. Après, à nous d'être libres. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Je m'appelle Mathieu Chartier, on s'est écrit en bas, c'est pour ça que je ne me suis pas présenté. Donc, pour le coup, je m'appelle Mathieu Chartier, j'ai une vie professionnelle, une vie personnelle. Et je ne veux vraiment pas mélanger les deux sur le web. Si je suis un tantinet intelligent, ce qui peut parfois m'arriver, je vais essayer entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, de ne pas utiliser les mêmes pseudos. Tout simplement parce que c'est très simple. Si je mets les mêmes, demain je veux me faire recruter, n'importe quel patron qui soit va taper mon nom, puis va trouver la photo où je suis bourré, c'est rare, hein. Je ne bois pas d'alcool, donc ça va être difficile, mais admettons. Et à côté, il va trouver la photo où là je suis propre sur moi. Au bout d'un moment, ce n'est pas crédible. Donc le problème, ce n'est pas Internet, là. Le problème c'est moi qui n'ai pas été intelligent. Donc déjà, soyons un petit peu malins, évitons de nous tirer des balles dans le pied, et normalement, ça nous fera moins mal. Donc ça, c'est vraiment la première base. Attention déjà à ce que nous, on fait. Alors on en vient bien sûr à ce qui en découle. Quand on a plein de données personnelles, qu'on peut les avoir, les gens vont pirater. C'est un grand plaisir. C'est pas si compliqué que ça de rentrer dans le PC de quelqu'un ou de craquer un mot de passe. Donc ça peut faire peur quand on n'y connaît rien. Ça peut faire rire quand on y connaît beaucoup. Et puis entre les deux, on voit que c'est pas rigolo quand ça nous arrive. Donc je vous cite quelques exemples de techniques. Alors le but, c'est pas de rentrer dans le jargon. Le plus connu, c'est ça, même si vous connaissez pas forcément le mot. Le phishing. En gros, la pêche. Ils viennent à la pêche aux infos. Alors ça, on en a tous reçu, on en reçoit sans arrêt. Et je pense même que dans vos entreprises respectives, vous recevez parfois des mails où on vous dit « Faites attention à ce mail qui vous dit ceci, cela ». Alors je vous en cite plein, Orange, vous allez recevoir un mail d'Orange, avec un beau logo orange, pas très compliqué à faire en même temps, le logo d'Orange. On va vous le mettre, puis on va vous dire, ben mince, je suis Orange, je suis vraiment une buse, j'ai oublié vos mots de passe, votre nom, puis malheureusement, j'ai oublié que trois données, ben c'est votre numéro de carte bancaire. Je suis vraiment pas malin. Donc si vous pouviez me le donner, ça m'arrangerait bien. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes naïf, vous remplissez, vous envoyez, merci messieurs, dames. Donc ça, c'est un exemple tout bête, je vous ai fait celui avec la carte bancaire directe, mais on en a d'autres des tout aussi malins. On en reçoit des tonnes comme ça. Je ne sais pas si certains ont déjà eu ce spyware-là, où quand vous allumiez votre ordinateur, vous aviez un écran, ça prenait l'écran complet de l'ordinateur, Gendarmerie nationale. Donc on vous demandait, vous aviez une amende parce que vous aviez piraté. Alors, on a tous tendance à y croire. C'est logique, parce qu'on a tous piraté. Donc on a tous tendance à y croire. On a au moins téléchargé un MP3 une fois dans notre vie. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se dire « oui, je suis blanc comme neige ». Donc on se retrouve avec ce message, avec un logo magnifique, fait certainement par un gamin de 5 ans stagiaire au Bangladesh. Donc c'est assez compliqué, mais quand on n'y fait pas attention, on va se dire bah, « tant pis, je vais remplir, je vais payer, puis je serai tranquille ». Donc à coût de 300 euros par-ci... Les Ivoiriens, ils sont contents au bout. Oui, c'était Ivoirien, pour l'anecdote. C'est souvent, à la base, c'est des Ivoiriens. Ils sont bons pour ça. On ne peut pas avoir des talents dans tout. Donc là, pour le coup, il faut faire attention à ce type de choses-là. En fait, c'était très facilement décelable. Déjà, les fautes d'orthographe. Si demain, je ne sais pas, enfin, si le ministère m'envoie un mail ou même ce type de courrier, qui est d'ailleurs intrusif, parce que je veux bien, mais si moi je me prends une prune ou une amende, tout du moins, j'aimerais au moins qu'on me le fasse dans le cadre légal. C'est-à-dire qu'on ne me plante pas mon ordi. Oui, c'est... Je sais pas, déjà ça me choque. Le logo, j'aimerais que ce soit le vrai, si possible, ce serait bien. Donc toutes ces petites choses-là, on peut les remarquer. Alors je vous donnerai 2-3 autres astuces tout à l'heure qui nous permettent de ne pas tomber dans le phishing. Moi aujourd'hui, ça ne m'est jamais arrivé. C'est tout bête. Il y a des mails, quand vous les recevez, ça vous étonne déjà. Ça vous choque. Vous dites, bon, étonnant qu'on m'écrive. Ce qui est plus rigolo, justement, c'est quand vous recevez un mail d'Orange et que vous êtes chez Bouygues ou SFR. Là, vous dites, bah, si tu les as perdus, c'est logique. Hein. Moi-même, je n'avais pas les tiennes. Donc. Après, on va avoir la deuxième partie. Donc, ça, c'était le phishing. C'est vous qui donnez gentiment vos données. Vous allez avoir l'autre. C'est, bah, vous ne voulez pas les donner, donc on va aller les pirater directement. Donc, dans les techniques. C'est tout bête. On a la devinette. On se connaît bien, hein, c'est quelqu'un de vos proches. Voilà, à la devinette, on peut trouver à peu près les mots de passe. Pour des raisons qu'on connaît tous, on a trop tendance à mettre des mots de passe qui sont proches de nous, ou de ce qu'on aime ou autre. Deuxième méthode, ce qu'on appelle la brute force. Alors ça, c'est tout bête. Brute force, ça teste. Toutes les combinaisons possibles. Donc vous dites, par exemple, je veux 8 lettres. Il y aura lettres et chiffres. Tu me fais toutes les combinaisons, puis espérons que ça tombe sur le juste. Et voilà, et vous faites ça. Alors autant avec les PC d'il y a 10 ans, ça mettait une semaine à faire ça avec des PC en réseau, autant aujourd'hui, ça va un peu plus vite. Donc il faut faire attention, ça peut être craqué beaucoup plus souvent. C'est une des raisons qui explique qu'on vous dit souvent, mettez un chiffre, mettez un signe particulier dans votre mot de passe ou autre. Vous n'allez pas le bloquer. Vous allez bloquer le pirate qui pense que vous n'en avez pas mis. C'est-à-dire que vous allez multiplier le nombre de possibilités. Si vous avez 26 lettres, bon, je vous épargne les calculs, vous allez avoir tant de possibilités. Si vous rajoutez en plus les 10 chiffres, donc je compte le zéro, dans ces cas-là, vous en rajoutez encore pas mal. Maintenant, vous rajoutez en plus les caractères spéciaux. Le pirate, lui, ne va pas dire « il m'a mis un tiré ». Il a mis un caractère spécial. On a 108 touches sur un clavier, sans compter les plusieurs combinaisons. Autant le dire, il ne le trouvera jamais. Voilà, donc ça, c'est une première approche. Maintenant, il faut que le service l'autorise. Ça, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que vous avez combien de services? Alors, il y a quelques années, on vous disait 6 lettres dans un mot de passe. Aujourd'hui, on vous dit 8. C'est déjà mieux, parce que ça fait quand même quelques possibilités de plus. Sauf que les pirates, eux, en face, c'est des machines. Hein. C'est 8, brrr, c'est déjà fait. Hein. C'est l'usine. Donc ce qui peut être intéressant, c'est justement de rajouter, quand c'est possible, ce petit caractère qui va tout tuer. Alors là, vous êtes quasiment tranquille. Hein. Vous pouvez prendre le nom commun le plus courant avec juste un caractère spécial, ce sera plus dur à trouver qu'un mot de passe de 10 signes, entre guillemets, avec que des lettres et des chiffres. Donc ça, après, il n'y a pas de vérité. Mais là encore, on casse la routine, et casser la routine, c'est plus gênant.
Si on a mis 6 lettres, on passe au
Ah non. Non, 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 non. Quand ils vont faire une brute force, une attaque de brute force, ça va être jusqu'à 8 lettres. Alors bien sûr, il y a des logiciels où c'est juste le nombre que vous voulez, et ainsi de suite. Maintenant, là encore, demain, je dois pirater Facebook. Voilà, je veux trouver le mot de passe de quelqu'un sur Facebook. Je sais que Facebook, c'est minimum 8. Donc je ne vais pas m'embêter à faire ce qui est avant 8. Je veux dire, tu me prends entre 8 et 10. J'ai du mal à croire que les gens en mettent 25 des lettres. Vous voyez, c'est rare. Donc en gros, je vais faire ça, et puis théoriquement, je devrais tomber dedans. Bon, je vous avoue, j'ai autre chose à foutre de mes journées, mais je pourrais faire ça. C'est pas compliqué en soi, des logiciels, il y en a à foison. La dernière technique, c'est ce qu'on appelle le hachage. Alors le hachage, c'est tout bête, c'est ce qui se passe à chaque fois que vous rentrez en mot de passe. Alors un exemple, vous êtes sur un site e-commerce, quel qu'il soit, Amazon, on va prendre le plus connu, le plus ancien, et vous voulez changer votre mot de passe. Vous remarquerez un truc, à chaque fois que vous voulez le changer, il vous en renvoie un par mail. Et après, il le fait, pour une simple et bonne raison. Il ne peut pas vous restituer l'original. En fait, les méthodes de hachage, c'est du cryptage, si vous préférez, mais qui n'est pas décryptable, en théorie. Donc ce qui se passe, c'est quand vous dites « je veux que tu me donnes un nouveau mot de passe », lui dit « moi, je ne peux pas vous le décrypter, je ne peux pas vous rendre le vôtre. Donc je vous en génère un, et puis vous reviendrez en faire un autre. » Le problème de ces méthodes de hachage, c'est les pirates, encore une fois. C'est qu'eux, en face, ils ont pensé à tout ça. Donc ils ont fait ce qu'on appelle des dictionnaires. Ils ont créé plein de mots, plein de mots, plein de mots, plein de mots, j'irais même générer plein de mots, avec toutes les clés de hachage qui correspondent. Donc quand ils tombent sur le mot de passe sur le web, c'est simple, en deux temps, trois mouvements, ils font l'inverse et ça va. Vous en avez plein sur Internet. Je vous en cite un, MD5, c'est la méthode de hachage. MD5 décrypteur. Vous tapez ça, vous en verrez plein. Donc vous tapez la chaîne dans un sens ou dans l'autre, il va vous sortir la chaîne de cryptage. Donc le mieux pour se sécuriser, c'est de créer ses propres fonctions de hachage. Moi, j'ai les miennes. Par exemple, je change les lettres, je coupe la chaîne plus loin et ainsi de suite. La personne ne pourra jamais retomber sur le mot de passe original. Donc comme ça, je fais plein de techniques. Bon, après, c'est du code, je vous l'épargne. Mais je vous avoue que si quelqu'un arrive à trouver un mot de passe avec les méthodes que j'ai, chapeau, là je veux le rencontrer tout de suite parce que, à moins d'être à côté de la personne qui l'a tapé, je ne sais pas comment il l'a fait. Donc, oui, allez-y.
Oui, j'ai entendu l'autre fois une chronique sur France Info qui parlait justement des mots de passe et d'un générateur de clés en partant de. Parce que c'est vrai qu'on est plusieurs, en assistant, je suis sûr, à avoir, disons, le même mot de passe, peut-être pour plusieurs sites administratifs ou plusieurs. Bon, c'est vrai que. Voilà, pour 4 ou 5 sites, on va utiliser. Pour des questions pratiques. Mais apparemment, il existerait maintenant des générateurs de codes temporaires pour utiliser, pour mettre un mot de passe qui serait valable qu'une fois. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ?
Alors, oui, ça existe. Donc déjà, première bonne intervention, on va dire. Enfin, je ne dis pas que les autres n'étaient pas bonnes. Première bonne intervention de monsieur. Donc pour le coup, oui, des générateurs existent. Maintenant, le problème qu'on a, si on prend souvent les mêmes mots de passe, et moi-même j'ai parfois le même mot de passe sur certains comptes, c'est tout simplement la mémorisation. Alors imaginez qu'on doit prendre en plus des mots de passe maintenant qui durent qu'une fois, qui sont donc éphémères, enfin, il va me falloir des listes de bloc-notes parce que je ne pourrais pas tout retenir. Des comptes sur le web, je ne sais pas, j'en ai 70, 80. Et je suis gentil, c'est peut-être tous ceux que j'oublie après, mais je ne peux pas avoir 80 mots de passe, ce n'est pas possible. Maintenant, si vous avez déjà des bons mots de passe, qu'ils soient répétés, ce n'est pas trop gênant. Après, il y a aussi d'autres cas où ce n'est pas top. Que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est chez Bouygues, les mots de passe de compte ne font que 4 chiffres. 4 chiffres. Alors là, autant dire aux pirates, tiens, tu veux trouver mon mot de passe ? Moi, c'est plus simple, il m'appelle, je lui donne. Je ne vais même pas l'embêter. Voilà, parce qu'il ne lui faudra pas longtemps à le trouver. Donc, tant qu'à faire, ce sera plus simple. Donc là, vous voyez, c'est quand même le comble que des marques comme Bouygues, par exemple, ne vous sécurisent pas. Par contre, c'est ces gens-là qui vous donneront des leçons après et qui vous diront « Oh là là, faites attention à vos mots de passe. » Non, non, sécurisez, puis peut-être qu'après, on en reparlera. Donc, il y a quand même un minimum à respecter. Je pense que les cas comme Bouygues sont rares, malgré tout. Mais dans l'ensemble, essayez de varier les mots de passe. Donc au maximum, sans pour autant négliger, on va dire, le fait d'en avoir parfois plusieurs pour les mêmes comptes. Moi, c'est clair, sur certains comptes pro, je garde le même. Parce que sinon, j'ai pas fini quoi. Je veux pas passer la moitié de ma journée à chercher le mot de passe qui correspond. Mais c'est, ça existe effectivement, un générateur, ça existe, ça mérite sa place, on va dire, dans, dans la société actuelle. Oh, c'est trop bête, je réponds pas. Non, non, bien sûr. Pourquoi ? Le problème, c'est que vous me posez une question où vous me demandez d'être aussi idiot que les pirates. Et je suis pas intelligent, mais j'essaye de pas descendre à ce niveau-là. Donc c'est compliqué. Non, très sérieusement. Pourquoi ? Je vais être honnête. Il y a peu de chances que demain qu'on vienne me pirater juste par plaisir. Enfin, à part quelqu'un qui se teste. Moi, je l'ai fait quand j'étais gamin, hein. Je ne vous le cache pas, je suis rentré. Je peux même vous le dire, le premier PC dans lequel je suis rentré, c'était des pompes funèbres. Voilà, vous vous doutez bien que ce n'était pas le premier intérêt que j'avais. Je suis tombé sur le premier, bah, le premier, c'était des pompes funèbres. Je suis rentré dedans, je suis ressorti, je n'ai rien cassé. Le but, c'était de voir comment on rentre. Parce que pour savoir se protéger, c'est parfois intéressant de savoir comment on fait pour rentrer. Donc effectivement, j'ai fait ça. J'ai piraté des marques que je ne vous citerai pas ici. Ça m'a gagné un peu d'argent, beaucoup d'argent même pendant un temps. Voilà où est l'intérêt. L'intérêt, il est souvent économique. Moi, quand j'ai piraté, le but, c'était pas de couler la marque ou d'embêter les gens. J'ai jamais volé de sous aux gens. Mais le but, c'était de me dire, est-ce que c'est possible ? Et surtout, est-ce qu'on va me trouver ? Vous savez, ça devient un défi après. Et quelqu'un qui est très bon, son but, c'est de se dire, tiens, eux, ils nous narguent, ben, on va voir si on peut rentrer. Récemment, je sais pas s'il y a des joueurs, mais Sony s'était fait pirater avec des multitudes de comptes. Et puis, 2-3 semaines après, ils ont fait une conférence pour dire « ça y est, on a tout sécurisé, tout est bien ». 2 jours après, tout était repiraté. C'est typiquement, vous savez, à la télé, il y a eu 100 bagnoles brûlées à Dunkerque. Le lendemain, il y en a 105 brûlées ailleurs. Ben après, on se lance des défis, hein. C'est que comme ça. Donc là, aux pirates, vous dites, tiens, les gars, je vous ai eu. Les mecs vont dire, oui, c'est ça. Allez, cause toujours. Alors, une petite anecdote. Il y a quelques années, je lisais Science et Avenir, le magazine. Et à la fin, ils nous présentaient les nouvelles cartes bancaires, celles qu'on a aujourd'hui, qui sont codées en 128 bits. Les anciennes étaient en 64 bits. Donc, on multiplie par 4 le nombre de possibilités. Ça en fait quelques-unes. Et dedans, donc, ils nous écrivaient que ça mettrait du temps à décrypter, ainsi de suite. 2 jours après, j'ai un ami qui vient chez moi, il me dit, tiens, j'ai un générateur de cartes bancaires, tu verras, il se régénère tout seul. Il repousse de 2 ans, en fait, chaque année. Il marche encore. C'était 2 jours après l'article où on y disait, oh là, ils ne sont pas prêts de la décrypter. 2 jours après, j'avais le générateur. Donc voilà, les pirates auront toujours un coup d'avance. On ne pourra jamais empêcher un bon pirate de rentrer. Ça, c'est clair. Un bon cambrioleur, il rentrera chez vous. Ça, on ne pourra pas faire autrement. Le but, c'est de sécuriser au maximum pour que tous les mauvais ou tous les gens comme moi, nous, on soit bloqués. C'est-à-dire que nous, on ne puisse pas rentrer. À partir de là, si vous bloquez 98% de la population, je doute que les 2% aient un intérêt pour nous. Vous voyez, Sony, ça les amuse. Là, c'est une grosse marque, il y a un vrai défi. Mathieu Chartier, si ça les amuse, bon, bah, qui s'amuse, hein. Mais je vous avoue, ils ne vont pas y gagner grand-chose. Donc c'est... Ce qui est dommage, c'est plus les jeunes. Je pense que c'est plus les plus jeunes qui sont visés. Au collège, on est méchant. Au lycée, on est méchant. Puis on veut faire notre malin. Donc on va aller pirater le compte de son copain qui va créer son 8e compte sur Facebook juste à cause de ça. Enfin, ça devient vraiment problématique. Après, il y a ce que je disais, même si j'ironisais, les Ivoiriens, effectivement, pour des raisons économiques, ils sont capables de tout. Mais vraiment de tout. J'ai pas assez de doigts pour vous raconter toutes les anecdotes que j'ai. Et je peux même vous dire, j'ai une agence web qui fait du plagiat de mes textes de mon agence web en Côte d'Ivoire. Sauf que moi, je peux leur faire quoi ? Enlève ton texte ? Puis lui va me dire, oui, c'est ça, elle vient en Côte d'Ivoire pour que je l'enlève. Donc voilà, bah, c'est moi qui change. C'est moi la victime, mais c'est moi qui change le texte. Vous voyez, c'est que comme ça. Donc ça, on ne peut pas tout empêcher. On peut faire le maximum, mais on ne peut pas tout empêcher. Donc les autres techniques de piratage, ça va être l'attaque frontale. Alors MSN n'existe plus, aujourd'hui il ne reste plus que Skype en discussion instantanée. Alors ce qu'il faut savoir, quand vous discutez sur ce type d'outil, une visioconférence en général on va dire, vous avez un échange entre les deux PC, il faut donc un pont. Le pont se fait à partir de vos 2 adresses IP. Vous pouvez trouver l'adresse IP de la personne qui est en face en 5 minutes à peu près. Donc c'est très facile. Je vous raconterai tout à l'heure une anecdote quand on parlera d'un autre sujet que j'ai vécu et j'ai réagi moi très promptement comme ça, parce que je savais trouver l'IP, ce qui a fait plus peur à la personne qu'autre chose. Et enfin, bien sûr, pirater les sites, c'est la grande mode. On a des failles dans les sites. Chaque langage a ses failles et on va rentrer dedans. Alors, mes sites ne sont pas parfaits. Donc, vous voyez, je suis le premier, je suis le meilleur exemple. On a tous des failles. Alors, c'est à cause de ces failles-là qu'on peut parfois tomber dans les bases de données qui contiennent donc nos mots de passe cryptés que eux décryptent. Et bien après, comme ils savent qu'on a souvent le même, eh bien, ils vont voir tous les comptes qui vont avec. Donc ça, effectivement, tout ce type de failles, il y en a beaucoup. Les plus courantes, c'est celles-là, ce qu'on appelle les injections. Injections SQL, je vous en montrerai une tout à l'heure. Ensuite, on a les failles XSS, donc c'est d'autres failles. On rentre en fait dans une brèche qui est faite par un site web. Et enfin, les dernières, elles sont plus rigolotes, beaucoup plus dures à mettre en place. En fait, on va utiliser la personne qui est en face pour qu'elle-même se pirate. En fait, on lui tend un piège, tout bêtement, via le web. La personne va plonger dedans, mais ce qui est tout à fait normal. Et nous, on récupère les infos comme ça. En fait, on fait une sorte d'appât, entre guillemets. Donc c'est plus dur parce qu'il y a des gens qui ne tombent pas dedans. C'est rassurant hein, comme conférence, c'est bien. Hein. Alors je suis obligé forcément de vous faire le tableau noir. Hein. Je vous avoue, je m'en remets tous les jours. Alors je vous parlais d'Orange tout à l'heure, c'est un des exemples de phishing qu'il y a chez Orange. Alors comme je vous disais, hein, j'ai déjà résumé très rapidement tout à l'heure, lisez bien le texte, est-ce qu'il y a des fautes? Oui, non. Et surtout, est-ce que c'est crédible? Regardez le logo, bon, celui d'Orange n'est pas dur à plagier, mais il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Ce qui peut être intéressant, c'est ça. Vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez le nom de la personne qui vous écrit. Puis moi, je veux savoir s'il est directeur de la relation client chez Orange. Si demain, je peux vous dire, si demain je faisais du phishing, j'aurais au moins l'intelligence d'aller prendre le nom de quelqu'un qui existe, qui a ce vrai poste. Vous voyez, je ne sais pas. Mais, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont très bêtes. Trop bêtes. C'est ça le problème. C'est que comment voulez-vous qu'ils essayent de faire quelque chose d'intelligent s'ils n'ont pas cette intelligence-là? Donc là, pour le coup, vous vérifiez ça, puis en deux secondes, c'est réglé. Hein. Alors là, bien sûr, on est après dans un autre cadre qui est l'usurpation d'identité. Mais je me dis qu'au moins, eux, ils sont malins. Alors là, bien sûr, je ne vous dis pas de le faire. Mais disons que il leur aura fallu à peu près 10 ans pour être malin. Donc je me dis que la deuxième étape, on en a pour 10 ans, donc à nous d'avoir un coup d'avance. Mais pour le coup, oui, c'est sûr qu'après, il y a le problème. Comment vous allez expliquer que ce n'est pas vous? Ben, c'est tout bête. L'IP, à chaque fois que vous envoyez un mail, il y a une IP. Donc là, déjà, ça va être vite vu. Deuxièmement, vous allez avoir l'email, déjà, tout bête. Donc l'email, vous allez avoir plusieurs possibilités comme ça qui vont vous rendre tout à fait crédible. Et je vais être honnête, si je reçois une attaque de phishing comme ça, moi je ne vais pas attaquer Fabrice André, hein. J'ai rien contre Fabrice André. Moi je vais juste aller voir si Fabrice André il existe. Et là je me dis, bon, ça peut éventuellement être crédible. Mais encore faudrait-il que je sois chez Orange, et ainsi de suite, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. De toute façon, dans ces mails-là, il y a un truc qui est commun et qui est normal, on ne vous donne jamais des infos sur vous, parce qu'on ne peut pas vous en donner. Donc en fait, c'est un mail très neutre, qui passe partout, qui est gênant. Si demain Orange devait nous faire la même chose, déjà il y aurait bonjour monsieur Intel, ce serait personnalisé. Et on vous ferait certainement dedans, vous êtes titulaire du numéro de téléphone Intel, du machin. Voilà, on vous montrerait qu'on vous connaît. Là, non, c'est envoyé du milieu de l'Afrique, et encore, je recite eux, mais il y en a d'autres hein, qui le font. C'est envoyé de là-bas, et puis bon, s'il y en a un sur mille qui passe, ben, tant mieux. Ben voilà, ben c'est typiquement ça.
C'est évident, ça. Orange, il y a forcément une boîte mail Orange.
Ah ben ça, c'est obligé.
Ben non.
Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire quand vous disiez de vérifier l'adresse IP auquel est connu?
Alors.
Alors,
je vais prendre toutes les questions, puis je répondrai tout d'un coup, comme ça. Allez-y. Alors pour le coup, la seule méthode qu'on a pour vous mettre une adresse réelle, qui ne l'est pas, c'est comme quand on envoie une newsletter. Quand on envoie une newsletter, hein, on en reçoit tous, des promos, peut-être un peu trop d'ailleurs, quand on les reçoit, on a bien une adresse propre, et quand on répond, ce n'est pas forcément la même. Donc si les pirates utilisent ce type de logiciel, ils peuvent mettre vraiment l'adresse qu'ils veulent. Alors où je rejoins monsieur, c'est que 99% des cas, l'email, il est risible, quoi. C'est ce que je mets ici, justement, quand je dis vérifier le lien hypertexte. Vous survolez le lien dans le mail, alors je ne sais pas si vous utilisez Firefox ou autre, mais en bas, il vous met l'adresse. Alors vous avez des mails, vous dites, tiens, je ne savais pas que Free avait un email de 35 caractères de long, mais bon, admettons. Donc effectivement, dans ces cas-là, ça va. Vous, malheureusement, vous êtes tombé pile dans le cas où ben, vous êtes tombé sur des malins. C'est assez rare, donc pas de chance. Enfin, de la chance si vous en êtes sorti, mais effectivement, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas prévoir grand-chose. Il y a écrit PayPal, le mail paraît crédible. Ça peut paraître compliqué. Alors des PayPal, j'en reçois 10 par semaine. Je savais pas qu'on était fan à ce point-là. J'ai l'impression qu'ils sont amoureux de moi même à ce niveau-là. Donc. Oui. Ah oui, pardon. Voilà, justement. C'est pour ça que justement, j'ai bien mis en le survolant. En le survolant, vous le survolez pour que ça apparaisse. Ou sinon, autre technique, vous allez dessus, vous le sélectionnez, vous faites clic droit. Vous faites un clic droit, affichez le code de la sélection ou propriété. En général, ça va vous mettre les informations qui correspondent au... Non, ah ben non, voilà, tant que vous ne faites pas un clic gauche pour cliquer dessus et y aller, voilà, ça va. C'est tout. Alors concernant l'IP, ça dépend bien sûr les webmails que vous avez, donc que ce soit Gmail ou autre. En général, quand vous ouvrez votre mail, tout en haut, vous avez un petit truc détail avec une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir un panneau à peu près comme ça, avec des emails, des serveurs, des choses comme ça. Et au milieu, vous aurez des IP. Alors, je précise, ce sera l'IP d'envoi du serveur. Ce ne sera pas l'IP de la personne, sinon ce serait trop simple. Moi, je veux pirater quelqu'un, je lui dis envoie-moi un mail, puis j'ai ton IP. Ce serait trop facile. Donc, ça va être l'IP du serveur. Sauf que ça, c'est très simple. Une fois que vous avez cette IP de serveur, vous pouvez très bien savoir si elle vient vraiment d'Orange, par exemple, ou pas. Donc ça se vérifie. Il faut savoir que légalement, ce qui a le plus de valeur, c'est l'IP. Si demain, je ne sais pas, vous faites pirater votre compte Facebook, vous l'écrivez à Facebook, on vous dira, est-ce que vous avez l'IP de la personne ? Très souvent, on vous demandera ça. Alors bien sûr, ils parlent dans un jargon qui est très rigolo, mais c'est vrai que si vous l'avez, c'est clair, ils font ce qu'ils veulent de la personne. Il y a même des outils comme Utrace, où vous mettez une adresse IP, ça vous dit géographiquement où il est. Donc ça, c'est en deux secondes, vous le savez. Alors bien sûr, je n'ai pas de solution miracle, c'est compliqué pour vous de vous expliquer comme ça. Il faudrait vraiment voir dans un mail comment c'est fait. Voilà. Donc là, j'ai pas de capture, mais à l'occasion, n'hésitez pas. J'ai pas de capture, on en précise pour ça. Alors la méthode brute force, bon voilà, il y en a plein, ce qui est important c'est surtout ce lien-là que je vous donne, un lien du gouvernement, donc lui on peut lui faire confiance, hein, bien sûr. Donc là vous aurez plein de solutions si vous êtes attaqué, des choses comme ça. Je vous donnerai comme ça 2-3 autres liens. Alors on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, essayez de faire des mots de passe relativement longs, avec des caractères différents. Ça c'est un exemple, alors il est tout petit pour vous, mais en gros, tout ce qui est écrit en blanc, c'est des tests de mots de passe différents avec une lettre qui change à chaque fois, et ça fait ça jusqu'à trouver le dernier. Et là, bien sûr, le dernier exemple que j'ai, il est trouvé. Donc là, filed, ça plante. Et ici, pardon, ça fait 3 pixels, donc j'y vois rien. Voilà, success. Voilà, donc le dernier, il est trouvé. Donc effectivement, ces choses-là, c'est tous les jours. Au moment où on parle, il y en a qui le font. Hein. Donc essayez de faire vraiment attention à vos mots de passe. Je pense que c'est la base de la sécurité, vraiment la base de ça. Mais même nos pseudos comptent. Ça va ? Vous avez le temps de... Hop. Mince. Tac. Si je ne vais pas dans le bon sens, on n'est pas rendu au bout. Alors, les attaques frontales. Alors, je précise ici, je vous donne une solution. Donc, je vous avais dit que je vous raconterais une anecdote. Il y a peu de temps, donc c'est assez frais. MSN existait encore, donc ça a quelques mois. Quand même, je me retrouve à avoir quelqu'un qui vient me parler. Alors j'étais hors ligne, je ne sais même pas comment la personne a pu me parler, mais elle vient me parler. Elle me parle français, pas de faute particulière, bon bah j'ai pas de raison de lui dire « va voir ailleurs », je réponds tout simplement. Donc on discute, 5-10 minutes, en attendant j'étais en train d'écrire mon deuxième livre. Vous voyez, j'avais autre chose à faire, mais bon, quand on écrit des pages, écrire 3-4 répliques c'est pas très long. Donc ça va, je réponds vite fait, Et d'un coup, la personne me dit, bah, si tu ne me donnes pas de l'argent, en gros, je vais diffuser ça sur Internet. Donc là, il me met une vidéo. Quelqu'un qui me connaît, honnêtement, ne m'aurait pas reconnu sur la vidéo, puisque ce n'est pas moi. Mais quelqu'un qui me connaît peu aurait pu se dire, effectivement, ça peut être la personne. Sauf que quand on met Mathieu Chartier est un pédophile, moi, ça me dérange, je vous le dis. Ça me dérange. C'est ce qu'on appelle la cyber-intimidation. Donc la personne fait une vidéo, arrive à trouver, je ne sais même pas comment il a fait, mais en tout cas, il le fait, vient me parler, puis il me dit, en gros, tu me donnes de l'argent, je vire tout ça, sinon, non. Alors le problème, c'est qu'il est mal tombé. Parce que moi, je travaille dans le web, donc c'est con. Donc forcément, je me suis dit, bon, j'ai peur, j'ai tremblé à peu près 2 secondes. Et je lui ai dit, bon, bah, t'es bien gentil, mon petit bonhomme, mais ça ne me fait pas peur. Donc déjà, tu n'auras pas d'argent, première chose. Puis deuxièmement, diffuse. Vas-y, diffuse, c'est pas grave. Et là, très simple, la personne, pour se rendre crédible, me dit, bah, je vais aussi le diffuser sur Facebook à ton ami un tel, un tel, un tel. Donc là, il vous donne des noms, vous voyez, il vous fait peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur Facebook, si vous avez l'email d'une personne, vous pouvez mettre son email dans le moteur de recherche et trouver le profil de la personne, et donc le nom des amis, et ainsi de suite, si vous n'êtes bien sûr pas protégé. Donc dans ces cas-là, bah, voilà, la personne avait trouvé 2-3 amis, chapeau à lui, il sait faire une recherche sur Facebook, ouh, miracle. Donc sur le coup, très très surpris et étonné par ce talent, sans nom, je lui dis, bah, c'est pas grave, on va continuer de parler, je vais te mettre ma webcam, puis on va pouvoir discuter. Donc je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on fait de la visioconférence, il y a un échange. Pirate complètement débile, dit, bah oui, oui, je veux bien ta webcam, tiens, prends mon visage. Ah, donc je l'ai mis contre le mur, désolé pour lui, j'étais un peu trop timide. Et j'ai cherché l'IP. 2 secondes après, je lui dis, est-ce que je peux te montrer quelque chose? Il me dit oui, je prends la caméra et je lui montre son IP sur mon écran. J'ai reposé, je dis, voilà, ça c'est ton adresse IP, t'as 5 minutes pour tout virer. Il m'a dit non. Bon, c'est pas grave. Je suis allé sur YouTube, j'ai fait sauter son compte. Je suis allé sur Facebook, j'ai fait sauter son compte. Je suis allé sur Gmail, j'ai fait sauter son compte. 1 demi-heure après, il n'avait plus rien. Il restait que MSN où on discutait très cordialement, bien sûr, et où là, je lui ai dit, bah voilà, t'as plus rien, donc maintenant... Soit tu me donnes de l'argent, soit tu t'en vas. Et il est parti. Donc c'est une vraie anecdote. Hein. Je n'invente rien du tout, c'est une vraie anecdote. La seule force que j'ai eue, c'est que je savais faire en face. La dernière phrase que j'ai eue avant qu'il quitte, je lui ai dit, tu sais, la prochaine fois que tu attaques quelqu'un, demande-lui son travail. Je lui ai juste mis ça. Des gens comme ça, vous en aurez plein. Maintenant, je refais la même. J'ai 14 ans. Je suis un peu naïf. C'est pas mon métier, enfin tout du moins, c'est pas mon domaine. Je suis pas habitué. Ben, qu'est-ce que je fais? Je donne de l'argent. Et puis il va en remettre une autre vidéo bidon. Hein. Puis je vais redonner de l'argent, et ainsi de suite. Là, ça m'a pris 1 demi-heure. Bon, il m'a perdu 1 demi-heure dans l'écriture de mon bouquin. Je m'en suis remis, il est fini. Mais pour le coup, c'est vraiment gênant, ce type de choses-là. Ça, c'est les attaques les plus courantes. J'ai fait des conférences à Saint-Éloi, notamment cet été, sur ce sujet-là. Et je peux vous dire, c'est touchant quand vous avez je vais dire des gamins, ils ne sont pas beaucoup plus jeunes que moi, mais des enfants qui vous disent, voilà, j'ai été attaqué, on a mis la photo de moi qu'on a chopée sur mon PC, sur Internet, tout le monde se moque de moi au collège, j'ai dû changer de ville. Enfin, imaginez jusqu'où ça peut aller. Il y a eu des suicides au Canada, ça a fait le tour du monde. Donc voilà, le mieux, c'est de savoir réagir, ou au moins de faire croire qu'on sait réagir. Vous voyez, donc avec juste la combinaison que je mets là-haut, netstat-n, vous allez en fait avoir toutes les IP connectées à votre ordinateur. Donc à partir de ce moment-là, vous allez regarder quels liens sont établis. Et puis il suffit de déduire. Si vous avez ouvert, je ne sais pas, vous téléchargez des films sur Torrent, vous savez qu'il va y avoir quelques IP qui sont Torrent. Vous allez, je ne sais pas, vous êtes en train de discuter avec la personne, il y aura au moins cette IP, il y aura la vôtre, il y aura l'adresse locale. Il va y en avoir plusieurs. Alors c'est un peu compliqué. Vous allez, si vous êtes sous Windows, je dis bien là-dessus, si vous êtes sous Windows, vous allez dans l'invite de commande. Alors vous savez, quand vous cliquez sur Windows en bas, ça va vous ouvrir le menu démarrer. Et vous avez un petit truc exécuté en bas. Vous tapez CMD. CMD, ça va vous ouvrir l'invite de commande. Donc ça va être un truc noir comme on a là, hein, tout simplement. Vous allez avoir ça. Une fois que vous rentrez là-dedans, vous allez avoir C, 2 points, blablabla. Vous tapez netstat, donc coller, netstat. N-E-T-S-T-A-T. Netstat. Espace, -n. Tiré du 6, oui, voilà. N. Vous tapez ça, ça va vous dresser les adresses IP. Même si vous n'êtes pas sûr de laquelle est la bonne, même si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave. Le but, c'est de faire peur à la personne. Les trois quarts des gens qui vont vous faire de la cyberintimidation sont des nazes. Donc vous allez pouvoir les avoir. Si le mec est malin, vous inquiétez pas, il passe pas par cette méthode-là. C'est, il vous le fait, puis une fois que vous commencez à subir les conséquences, là il vient. Puis là il vous dit, maintenant c'est temps, et je vire tout. Là c'est différent, il vous menace par avance parce qu'il sait que bon, et voilà, il est pas très habile non plus. Donc c'est pour ça, avec ce type de méthode-là, ça peut aller. Alors vous aurez toujours un malin qui vous dira, oui mais c'est pas mon adresse IP, je passe derrière ce qu'on appelle un proxy. Là vous dites, c'est pas grave, dès que moi je vais donner l'adresse IP à la police, eux ils vont remonter. Ce qui est possible, hein. Voilà, c'est pour ça que je le dis, c'est possible. En général, c'est... voilà. Vous aurez voilà, une liste d'adresses. Alors, vous en aurez plus ou moins, bien sûr, selon l'ordinateur que vous avez. Et à partir de là, vous pourrez repérer. Alors, je vous ai donné une astuce, sinon après, on est dans ce qu'on appelle le piratage. Moi, le sujet, c'est la sécurité. Mais pour le coup, c'est quand on va un peu plus loin, on peut trouver d'autres choses. On peut pirater des serveurs FTP de PC en 3-4 lignes de code. Hein. Vous rentrez dedans, vous avez la liste des fichiers. Je vais, juste pour l'anecdote, un des réseaux de l'université de Poitiers, je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans et j'ai écrit aux personnes intéressées de l'université, je leur ai dit, bah, vous ferez gaffe, il y a une faille ici. Voilà. Tout comme eux sont capables de rentrer dans certains de mes sites, hein, parce que bon, ils sont bien meilleurs que moi. Mais le but, c'était justement de montrer, bah, personne n'est infaillible, même vous. Vous voyez, c'est facile de donner des leçons, mais il faut aussi se regarder le nombril. Vous aurez plusieurs. Alors vous en aurez où il y aura écrit, comme c'est en fait c'est ce qui est écrit ici, time wait established. Donc time wait, c'est que le temps est dépassé. C'est-à-dire que le retour ne fonctionne plus. Donc c'est pas une personne avec qui vous discutez. Donc ça c'est quelque chose de fermé. Donc ça va être déjà dans les established. À l'intérieur des established, vous allez avoir les vôtres. Donc ça, bah, faut connaître les siennes. Ça, moi, je peux pas tout vous donner en deux secondes. Mais vous allez éliminer celles qui correspondent aux vôtres. Vous allez éliminer celle qui serait votre réseau d'ordinateur. Vous allez éliminer votre portable, peut-être, qui est en Wi-Fi. Vous voyez, toutes ces petites choses-là. Par élimination, il devrait vous en rester 2-3. Donc, vous tombez dedans. En général, dans les 2-3 qui restent comme ça, bah, faut tester. Puis, dès que vous avez des réponses, ça peut marcher. Donc là, je vous épargne, justement, comme je vous dis, cette étape-là. Quand on teste, on fait ce qu'on appelle un ping. Plus la réponse va être rapide, plus il y a de chances que ce soit la bonne personne. Ah, donc c'est pour ça. Là, dans l'exemple que j'ai dans la capture, il vous met une flèche rouge sur une IP où il vous dit bah, « c'est celle-là ». Et pourtant, on ne voit pas spécialement de différence entre les autres. C'est que la personne, elle a fait des tests. Là, pour la capture, elle nous a gardé que ce qui marchait. Mais elle a fait des tests dessous pour savoir c'est laquelle. Alors, la dernière étape, celle qui nous touche tous. Donc ça, on a un site web, quelque chose pour se connecter, puis la personne tape login admin, toto, hop, or 1 égale 1. Ce qu'on appelle dans le jargon une injection SQL, traduction. Quand on fait une requête dans une base de données, on l'ouvre par des doubles guillemets ou des simples guillemets, très généralement des doubles. Et quand on va chercher les données qui sont dans notre tableau, il faut imaginer qu'une base de données, c'est un tableau Excel. Voilà, on va dire que c'est la même chose. Donc chaque colonne, c'est des données. J'ai la colonne nom, email, mot de passe, et ainsi de suite. Pour chaque colonne, à chaque fois, on met une guillemet simple. Là, en fait, ce que la personne fait, elle ferme la colonne en mettant sa guillemet simple. Elle la ferme, puis elle lui dit, tu vas me tester si 1 égale 1. Traduction, si c'est juste. Et en fait, à partir de là, il va réussir à récupérer plein de choses, plein d'informations. Nous, ce qu'on fait quand on travaille dans le web, c'est qu'on a des choses qui vont réécrire les apostrophes, ou ce qu'on appelle échapper les apostrophes, pour que ce problème n'arrive pas. Donc c'est à nous de faire ça, c'est à nous de faire attention. Mais il y en a plein, ça existe encore, vous en avez à foison. Donc ce type d'injection, ça arrive très 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 souvent. Et à partir de là, c'est très simple, si on voit qu'il y a la faille, on obtient tout ce qu'on veut. Mais on obtiendra, si on est malin, que des mots de passe cryptés. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, cryptés théoriquement en MD5. Ça fait 32 caractères, un mot de passe en MD5. Le problème, c'est que comme maintenant ils ont leur dictionnaire et qu'ils peuvent les décrypter parce que nos mots de passe sont trop simples, bah, c'est comme si on leur donnait le mot de passe. Et après, roulez jeunesse, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est vraiment là le problème. C'est à nous vraiment de bien d'avoir des mots de passe sécurisés pour que si le webmaster, par inadvertance, on va dire, a oublié de protéger un formulaire, ça nous évite bien sûr de nous retrouver avec des comptes ouverts à tous. Donc c'est déjà à nous de faire attention. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, quand je fais des méthodes de hachage personnel, ça finit toujours par 32 caractères. Comme ça, si le pirate il tombe dessus, il dit « Tiens, j'ai un MD5. Bon courage pour le décrypter. » Voilà, donc c'est... Mais c'est plus rigolo. Si je l'avais mis en 20, il dirait « Ah mince, il a son cryptage. » Donc je ne lui donne pas de défi. C'est pas marrant pour un pirate. Donc là, je lui mets en 32. Comme ça, je lui dis « Tiens, amuse-toi. T'en as pour un moment. » Voilà, donc je suis un petit peu nargueur. Hein. Mais il n'y a rien de plus rigolo en sécurité en même temps. Hein. Quand on se fait attaquer... Non, pas forcément. Ça, et c'est d'ailleurs la première phrase, j'ai dit, c'est bien le travail du webmaster. C'est à lui, théoriquement, d'avoir fait ça. Il doit faire un maximum de choses pour éviter toutes ces failles. L'injection, c'est la plus courante. Moi, déjà, des injections, il peut m'arriver d'en laisser dans mes propres sites. C'est possible. Je dirais, je suis pas parfait. Hein. Je suis comme tout le monde. Donc, j'essaye de faire le maximum pour qu'il n'y en ait pas. Mais vous avez toujours un mec plus malin qui vous en trouvera une. Donc, il faut penser ça. Donc, dans l'idéal... on arrive quand même, je dirais, les injections les plus courantes, on arrive à les bloquer. Sauf qu'il y a des nouvelles failles sans arrêt, les gars, on trouve sans arrêt des nouvelles, et on ne peut pas tout protéger. Je vais être honnête, quand on fait un formulaire, moi je rigole souvent, récupérer la donnée d'un formulaire, ça prend ça comme caractère. Le protéger, vous multipliez ça par 10. Voilà, pour chaque champ. Donc en fait, à chaque fois, c'est ça, il faut protéger, protéger, protéger. Vous savez, sur le web, quand on code, on passe la majorité de notre temps à coder les choses qui ne devraient jamais arriver. Je vais vous citer un exemple. Je veux deux cases. On doit mettre deux chiffres. 1 plus 1. Voilà, c'est censé faire ça. Vous aurez toujours un imbécile qui vous mettra une lettre. Ben vous êtes obligé de le coder. Dire si c'est une lettre, alors tu fais ça. Et si c'est un chiffre, ben tu le respectes. Vous aurez toujours ce cas-là. Mais en plus, il faut lui dire si c'est une lettre, mais que ce n'est pas une apostrophe, alors machin. Et ainsi de suite. Et ça, c'est qu'une faille. Donc vous imaginez, on passe avec un traitement hyper long juste pour ça. Donc ça peut nous arriver, effectivement, d'en oublier. C'est humain. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Après, il y en a qui couvrent les portes. Hein. Tant pis pour eux. Dans l'ensemble, ça va. Je ne suis pas du tout inquiet pour les sites Orange, Bouygues, tout ça. Si eux ne le font pas, gare aux plaintes. Parce que là, ça va faire mal. C'est eux les responsables. C'est eux les responsables. Donc attention. Hein. Donc, à nous de faire attention à ces failles, on va dire à nous de faire attention plutôt que si ces failles persistent, le mot de passe soit suffisamment compliqué pour que de toute façon, ils ne le trouvent pas. C'est plus ça. Donc on en revient toujours au même, un bon mot de passe. Oui, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est de la sécurité, pour le coup. C'est une bonne idée, à la base. C'est-à-dire qu'ils font un système qui, au bout de 3 échecs, c'est le cas de la carte bancaire, hein, si on se plante 3 fois de... Voilà. Donc, boum, ça la bloque. Alors, effectivement, si vous tombez sur des malins qui s'amusent à jouer avec votre email, ça va être vite fait 3 fois. Hein. Moi, il me faut pas 10 minutes. Hein. Donc là, effectivement, ça part d'un bon sentiment... Mais voilà, ils sont un peu tirés une balle dans le pied avec leur système. Ce qui se fait de plus en plus, sur les réseaux sociaux notamment, c'est ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire que vous rentrez votre mail, votre mot de passe, au moment où vous envoyez, il vous envoie un SMS. Donc le pirate qui aurait votre portable, théoriquement c'est vous-même. Hein. Donc bien sûr, là, ben, vous rentrez le code et puis le problème est réglé. C'est pas une mauvaise idée, moi il y a un truc que je critique à ça, ben, c'est le fait que ça veut dire que mon numéro maintenant il est dans la base. Donc si le pirate il est meilleur, lui en plus d'avoir mon email, maintenant il a mon numéro, c'est cool. Donc vous voyez, il y a toujours l'effet pervers. C'est bien en termes de protection, mais attention. Ce qui est pas mal, c'est ce qui existe sur Facebook notamment, ou sur certains hébergeurs comme OVH, c'est les notifications par email. À chaque fois qu'on se connecte, on reçoit une notification. Là effectivement ça va. Alors juste une toute petite astuce que je vous glisse, elle est cadeau. Pirater les mails, on l'a tous quasiment vécu, on s'est tous fait pirater un petit peu nos mails, même 5 minutes sans s'en rendre compte. Quelque chose qui est super intéressant, c'est que souvent, les personnes pour pirater les mails passent par, reformuler, enfin poser ma question secrète, puis en fait on refait un mot de passe. Ce qui fait que c'est pas une, ils n'entrent pas discrètement dans votre mail. Le mot de passe est changé, vous êtes bloqué. Un bon pirate rentrerait proprement dans l'adresse sans que vous en rendiez compte. Là, la différence, c'est que c'est simple. Vous êtes bloqué, ben vous n'avez pas le choix, il faut le réinitialiser. Une technique que je fais sur certaines boîtes, on va dire, à risque, je crée une deuxième boîte, poubelle. Et dans la première, je fais une redirection automatique de mail. Ça se fait, ça, vous savez, ce n'est pas très, très compliqué. Vous allez dans les options, et puis vous dites, voilà, rediriger mes mails vers, et puis vous envoyez vers la boîte poubelle. Ce qui fait que, quand moi, donc la personne m'a piraté, elle a changé le mot de passe, paix à son âme, donc pour le coup, moi derrière, je vais repasser, puis je vais refaire la même chose, parce que je veux récupérer mon mot de passe. Sauf que, quand la personne redéfinit le mot de passe, ça l'envoie à la première, mais ça redirige vers la deuxième. Je vais dans la deuxième, et en dessous, vous avez toujours un lien, si ce n'est pas vous, et ainsi de suite, cliquez sur ce lien. Vous cliquez, ça annule. Terminé. La première chose que le pirate devrait faire, c'est aller voir s'il y a une adresse de redirection et la virer. Redéfinir encore le mot de passe, puis le problème serait réglé. Mais comme ils n'y pensent pas forcément, je peux vous dire, vous sortez de la panade, mais 95% du temps. En fait, c'est de la malice. J'invente rien, c'est juste de la malice. Vous savez comment ils fonctionnent, vous dites, ben, comment je peux faire pour les contrer ? Ah, c'est... Oui, c'est
pas mes amis, mais c'est vrai que pour le commun des mortels, ça peut être peut-être pas mal.
Alors, en fait, le CAPTCHA ou clavier virtuel, hein, pour le coup, c'est le même fonctionnement pour les deux. Ça part d'une chose qui est toute bête, c'est la pollution de spam. On en reçoit plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des robots qui viennent, pré-remplissent entre guillemets le formulaire, puis appuient sur le bouton entre guillemets et vous envoient des spams. Étant donné qu'il y a un mail au bout, ils sont contents, ils sont rentrés. Donc ça, c'est les trois quarts du temps, c'est ça. C'est comme ça qu'ils arrivent à recueillir un maximum d'adresses e-mail. C'est pour ça que sur mes boîtes pro, j'ai juste 100 fois plus de spam que sur mes boîtes perso. Je suis beaucoup plus ciblé. C'est logique. Le CAPTCHA ou le clavier virtuel a permis de créer une seconde couche, entre guillemets, que les robots ne voient pas. Donc nous, visuellement, on la voit. Et ça fonctionne. Alors effectivement, pour les malvoyants... Qu'est-ce qu'on peut faire comme système qu'un robot ne verrait pas, qu'un malvoyant verrait, entre guillemets ? C'est vraiment compliqué. Donc, c'est une bonne pratique, c'est utile le CAPTCHA. Le problème, c'est que c'est. On peut parfois s'en passer. Je pense qu'on peut parfois s'en passer. Moi, je le mets en général sur les formulaires de contact, parce que c'est là que c'est le plus attaqué par les spams. C'est là, j'essaye voilà, d'en mettre quand c'est possible. Le mieux, effectivement, c'est le CAPTCHA avec ce qui nous permet d'avoir aussi le son, si besoin. Ça, effectivement, c'est le mieux. Il y en a qui ne le font pas. Je ne vous dirais pas que c'est bien, hein, mais malheureusement, les sites web faits pour les non-voyants, je peux vous dire, c'est dans les premiers cours que je donne à l'université, c'est ça. Et je vais vous citer un site très bien fait pour les non-voyants. Je vous le conseille, c'est le site du Vatican. Qui bien sûr n'a aucun budget pour se permettre de faire un bon site. Donc c'est un des sites le plus mal foutu en termes d'ergonomie. C'est un des premiers que je prends en exemple. Et je dis souvent, vous savez, il y a quand même des risques que des non-voyants aillent sur ce type de site. Vous voyez, c'est sûr que sur YouTube, les non-voyants, sans vouloir faire d'ironie, iront peu. Voir les vidéos, ce n'est pas forcément la chose qui va les intéresser le plus, bien qu'ils écoutent. Mais aller sur le site comme le Vatican, les impôts, on va prendre celui-là, ils ont le droit aussi de le payer, hein, les impôts en ligne. Hein. Mais c'est fait avec les pieds. Enfin, je pense que même mon petit frère sans notion de web le ferait mieux. Hein. C'est grave en fait à ce niveau-là. On est proche de la faute professionnelle. Et j'essaye là d'être très tolérant. Vous voyez ? Donc c'est ça qui fait peur.
Qui m'agace toujours
au plus haut point les messages collectifs qu'on reçoit avec 130 adresses visibles. Il y en a qui ne savent toujours pas qu'il y a un CCI.
Oui.
C'est... Alors ça, c'est un truc...
Ah ben ça, là, il y a... C'est... Ah ben alors, tous...
Voilà.
C'est...
Exemple, l'université de Poitiers. Voilà. C'est le dernier détail en date.
C'est...
Dernier détail en date. On est inscrit à l'université citoyenne, oui. N'est-ce pas ? Et donc, Madame Michaud, je la remercie. Je vais lui envoyer d'ailleurs probablement un mail assez rageur en lui disant je sais comment vous avez mon adresse, mais je sais aussi grâce à vous comment 150 personnes ont la mienne maintenant. Merci.
Vous savez que ça va même plus loin que ça. J'ai un ancien camarade de classe, hein, quand j'étais en master web à Poitiers, belle université pour le coup. Donc, quand j'étais là-bas, cet ami a travaillé chez Free pendant plusieurs années. Il était au service client, vous savez, ceux qui prennent les coups. Et donc il était là-bas et il est resté fidèle à Free même après ses études. Et il n'y a pas longtemps, il a envoyé un mail qui était juste magique à Free. Il serait inscrit chez Free, crée une boîte mail poubelle juste pour Free, juste pour s'inscrire. Prends bien soin de décocher et recevoir les offres partenaires, et ainsi de suite. Donc voilà, il ne reçoit rien, il s'inscrit à Free, point. Il est donc censé recevoir ses factures, éventuellement des offres, on va dire, de Bouygues, de Free, guerre plus. C'est... Pardon pour Free, donc SFR Orange. Voilà, on va faire la totale. Donc pour le coup... Il est censé recevoir que ça, sauf que il n'arrête pas de recevoir des spams. Vous doutez bien que cette adresse email, il la donne pas à grand monde, hein, si ce n'est à Free, il la donne à personne. Ça veut dire que Free ne respecte même pas sa propre case. Il l'offre quand même à ses partenaires. Et donc là, il a envoyé un mail pour leur dire ben, « Merci Free de ne pas respecter mon choix, de ne pas en donner mon email à vos partenaires. » En fait, que vous le cochiez ou pas, il donne, voilà, puis enfin il donne, pardon, il l'échange, voilà. Donc ces choses-là, légalement, c'est sanctionnable. Le problème, c'est comme tout, c'est qu'il faut réussir à le prouver. Là, dans son cas, c'est parfait, la boîte est poubelle. Elle ne peut être que pour Free. Donc là, ça va, mais on a tous des boîtes mail où justement, on reçoit des mails généraux, donc on ne sait pas, on ne peut pas vraiment le prouver. Lui, il peut. C'est pour ça que quand il a envoyé le mail, il a bien fait comprendre, attendez, là, me prenez pas pour un imbécile, quoi. Mais c'est ça, des cas comme ça, je peux vous dire, c'est quasiment tous. Quasiment tous.
C'est que Free a vendu quelques fichiers à un parti politique, un certain parti politique, pendant les élections présidentielles de 2012.
Bah, de toute façon, c'est simple, hein, quand l'argent entre en jeu, en général, la loi, bizarrement, on l'oublie. Hein. C'est, des choses comme ça, là, ça dépasse notre cadre. Les fameux mails, justement, collectifs, c'est vrai que le copie caché existe, c'est bien, c'est la case en dessous, en plus, c'est vachement dur à trouver. Donc, là, je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas non plus la plus grande précision. Hein.
Ben, parce que moi-même au début je pensais que faire copie cachée ça suffisait, et maintenant il faut faire CC.
C'est pas copie cachée, c'est copie carbone.
Je croyais que CC voulait dire copie cachée, et en fait CC veut dire copie carbone.
C'est ça.
Et je suppose que je suis pas la seule à
avoir. Ah bah oui. Ah ben, pour le coup, ce qui est gênant, c'est plutôt que des cas comme l'université, comme voilà, que eux le fassent. C'est-à-dire qu'on fasse l'erreur, on est tous humains, je l'ai fait et je la referai. Voilà, on est tous pareils. Mais des services de ce type-là, attention quoi. C'est attention, je dis pas que ça peut pas arriver, mais limitons la casse. C'est. Alors là.
L'un envoie une invitation pour une fête. Si on veut discuter ensuite entre nous sur l'organisation des choses, on fait réponse à tous.
Voilà, le CC est mieux.
Et on communique comme ça. Et avec le CC, ça fonctionne. Voilà.
Voilà. Ils ont tous un rôle, hein, de toute façon. Maintenant, effectivement, ça devrait peut-être être un peu plus mis en avant. Là, le problème, c'est que j'ai du mal à contacter tous les éditeurs du monde, hein, je vous avoue. Oui. C'est de l'habitude après. Hein. Donc c'est de l'habitude. Après, bah, ça, malheureusement.
On n'est pas à ce niveau-là, mais qui est le niveau personnel où on est rarement attaqué, sauf le phishing qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais c'est juste, par exemple, il y a des spammers amateurs. C'est-à-dire des gens qui aiment bien envoyer plein de choses à plein de gens.
Ah oui, oui, et bah, après, c'est. Des chaînes, des choses comme ça. Ah oui, effectivement.
Et c'est vrai que moins on leur offre la possibilité. Parce que c'est pas des hackers, ces gens-là.
Ah ben bah non,
c'est plutôt des gens qui ont des thèmes hackers.
Mais on est ici dans la protection de notre image, dans la protection des données personnelles. Notre email est personnel et on n'a peut-être pas envie qu'il soit divulgué comme ça. Donc on est dans le sujet, hein. On est dedans, hein. Aujourd'hui, sur le web, il faudrait, je dirais, au moins 3 mails. Vous allez avoir le mail facture, vous voyez, les impôts, les choses comme ça, voilà, le mail facture. Vous allez avoir le mail e-commerce, ça va être la grande mode. Et puis le mail perso, éventuellement un quatrième, le mail pro. C'est-à-dire, ça, ce serait pour moi le minimum. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas combien j'en ai, faudrait que je me rajoute des mains, à mon avis. Mais dans l'ensemble, c'est bien d'en avoir plusieurs, ça permet de bien découper les infos. Puis on donne celui qui intéresse à chaque fois. Là, après, c'est à nous de le faire. Alors, il y a des études, hein, qui sont sorties en France sur l'année 2012. On considère que les gens ont en moyenne 3 mails. Donc vous voyez, on est dedans. Donc ça y est, les gens prennent l'habitude. On a presque 20 ans de recul sur le web en France, hein, donc ça commence maintenant à entrer vraiment dans les mœurs, c'est logique. Donc on passe à la seconde partie, donc celle qui traite vraiment de l'identité numérique. Alors finalement, on en parle depuis tout à l'heure, hein. J'y viens là parce que je suis obligé de classer. Donc l'identité numérique, bah, la définition, je l'ai mis en haut, c'est tout simplement notre transposition, notre vie virtuelle, entre guillemets, par rapport à notre vie réelle. Alors, quand on est des humains plutôt respectueux, on a la même vie virtuelle que réelle. C'est-à-dire que moi, je ne m'invente pas une vie sur le web. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous avez des gens qui vont, eux, en profiter pour s'inventer une vie. Et vous en avez d'autres qui, eux, vont s'inventer, on va dire, une vie économique, façon de parler, qui vont vraiment aller chercher des sous. Vous en avez d'autres qui vont chercher à se faire une notoriété. Alors là, ça, c'est, je pense, le plus gros problème actuel du web. C'est-à-dire que les starlets en herbe, il y en a à foison, peut-être un peu trop. C'est facile, on prend tous une vidéo, on se filme sur YouTube, et puis on se met, et puis ben, peut-être que ça fera le buzz, comme on dit. Et puis voilà, et puis vous vous retrouvez à être connu, alors que finalement, vous êtes, je vais être méchant, vous êtes rien. Je dis pas qu'ils sont rien, hein. Il y en a qui ont un vrai talent. Mais pour le coup, c'est ça. Ça, on va dire que ça a créé l'envie, on a tous la possibilité de réussir. Donc forcément, on veut tous se vendre. Et on en vient donc au concept de personal branding, la marque personnelle. On devient une marque à nous-mêmes. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de le faire. Je vais vous citer un exemple. Je sors mon premier livre. Je sors mon premier livre en février. Et à ce moment-là, je me dis, ben mince, c'est un peu bête. Si quelqu'un tape Mathieu Chartier sur Internet, il va tomber sur un homologue québécois qui travaille en plus dans le web. Donc je me dis, j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Je ne peux pas en vouloir au Mathieu Chartier, déjà. Mais je me dis, voilà, ça va être un peu dommage. Tout ce que moi, j'ai fait comme effort, ben, finalement, c'est pour lui. Donc je suis obligé de créer ma marque, mon nom. Ben, je me suis créé un site sur mon nom exprès. Donc je suis un peu dans ce type-là. Je sors un livre, je suis obligé de faire la com sur mon nom. Je veux me faire recruter. J'aimerais mieux qu'on voit ce que j'ai fait plutôt que ce qu'a fait le Québécois. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc on est obligé au bout d'un moment de faire ça. Mais d'un autre côté, une fois qu'on sait mon nom, il va aussi y avoir tout ce que je ne veux pas qu'on voit. Donc comment je vais dissocier les deux? Et c'est là toute la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parlais des gens qui sont rien, je pense que quand je vais vous citer les exemples, vous verrez qu'ils ne sont pas grand-chose, effectivement. C'est des gens qui n'ont pas peur d'aller à la télé, parce qu'il y a bien sûr des journalistes qui ont l'audace de les inviter, et qui vont leur dire, voilà, vous, votre but, c'est quoi? C'est de provoquer tout le monde? Et la personne, oui, moi, j'aime personne, je suis le meilleur, je suis machin. C'est-à-dire que les gens, pour être connus, sont capables de se ridiculiser devant la France entière, et encore, la chance qu'on a, c'est que YouTube va même au-delà des frontières, donc dans le monde entier, voilà, juste pour être connu. Alors, je vous avoue, je ne suis pas encore prêt de me mettre tout nu en plein centre de Poitiers pour faire vendre mon livre. Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour la nature. Donc voilà, mais il y a des gens qui feront ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une marque et on veut aller loin. Donc le personal branding, c'est plus ça le vrai problème de l'identité numérique. Qu'on soit, qu'on ait une vie virtuelle, ça ne me choque pas. À nous de faire attention, là encore, à ce qu'on dit. J'entends souvent des gens qui me disent « Oui, sur Facebook, mes données ne sont pas cachées, on voit mon portable, on voit mon opinion politique. Ben, » Pourquoi tu l'as rempli, la case? Je sais pas. Il est où le bâton pour que je te batte? C'est vraiment ça. Autant le nom, on ne peut pas s'en passer. L'email, on ne peut pas s'en passer. Autant il y a plein de champs qu'on n'est pas obligé de remplir. Ben, on ne les remplit pas. Point. Je sais pas. Ce serait typiquement, vous savez, la personne qui irait voler, puis qui après va dire « Ouais, mais je voulais pas. » « Ah oui, mais tu l'as fait. » C'est dommage. C'est bête, mais tu l'as fait. Ben oui, c'est pas après qu'il faut se plaindre. Ah, hein, on tourne sa langue 7 fois avant de parler. Ben là, c'est la même chose. Donc, on tape 7 fois avant de remplir. Voilà, j'invente une nouvelle expression. Donc, l'identité, c'est ça. À nous de faire attention. Donc, comme je dis, protéger son identité, c'est d'abord se protéger ou sécuriser sa propre structure, si c'est dans le cadre, bien sûr, professionnel. Là, les méthodes ne sont pas parfaites, et puis il n'y a pas de solution miracle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça donne une seconde chance aux gens. Pour eux, ça y est, c'est une opportunité. Le web arrive, ils ont plus ou moins réussi leur vie réelle, en gros, et d'un coup se disent, j'ai une opportunité de réussir sur le web. Alors, où je suis fier, c'est que le web, c'est un peu le rêve américain. On peut tous réussir. Moi, aujourd'hui, je vis grâce au web. Pas parce que c'est mon métier, mais c'est Google qui fait que je suis connu aujourd'hui. Donc sans Google, je ne sais même pas si je décrocherais des entretiens. Oui, donc c'est rendu à ce point-là. Mais Google, lui, il s'en fout que je sois Mathieu Chartier ou que je sois quelqu'un de très connu. Lui dit, tu as fait tel travail de qualité ou autre, tu es plus ou moins haut, puis on te trouvera. Donc moi, ma chance, elle est là. C'est que je suis connu grâce à Google. Donc effectivement, je ne peux pas critiquer ça. On a tous une seconde chance là-dessus. La raison, c'est est-ce qu'on veut la gâcher ? Second Life, un réseau social en 3D, pour le coup. Donc effectivement, à nous de la saisir, mais pas de faire n'importe quoi. Je vais vous citer le nom le moins connu du monde, Michael Vendetta, je pense qu'on l'a tous à peu près entendu. Voilà, donc Michael Vendetta a eu sa seconde chance, et on a vu ce qu'il en a fait. Il n'aura pas de troisième, le mal est fait. Donc c'est une starlette en herbe, en fait, qui s'est fait connaître sur Internet pour des provocations. Voilà. Et si avec des provocations, ce serait que la belle partie de sa vie. Donc il a 22, 23 ans et ça promet pour les 50 prochaines années. Donc vous voyez, ce type de choses-là, c'est que les gens se disent d'un coup, je vais pouvoir générer du buzz. Alors, il a réussi inconsciemment. Il a fini à la télé, dans une émission. Il a eu son argent, mais c'est éphémère. Là, en ce moment, on a Nabila. Là, oui, voilà, je cherchais son nom. Nabila, la culture. J'irais la culture à elle-même, voilà, elle a réussi. Dans 2 ans, on ne sait plus qui c'est, mais elle a réussi. Elle sera contente. Oui, j'espère que ça ne va pas durer 2 ans. Mais si les dieux existent, faites que ça ne dure pas 2 ans. Voilà, je vous le dis. Mais pour le coup, ça arrive. Donc à nous de faire attention, de ne pas tomber, vous voyez, dans cet excès-là. C'est très facile de se faire connaître, mais c'est très facile de se faire connaître en mal. Se faire connaître en bien, il faut travailler pour se faire connaître en bien. Il faut apporter quelque chose. Moi, j'aimerais aujourd'hui être reconnu pour mes quelques qualités.
Ce qui est surtout compliqué, c'est de se faire oublier.
Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps.
Trading.
T-R-A-D. On l'accuse en un mot, si vous voulez, au lieu de travailler, de faire sans
arrestations, des connexions sur Internet. Et elle, elle répond, en fait, je fais des connexions sur mon temps de pause. Et si vous voulez, ces connexions génèrent, sans que j'y suis pour rien, d'autres connexions. Et donc, vous ne pouvez pas m'accuser de faire 74 connexions alors que j'en ai fait qu'une ou deux. Et ça s'appelle le multi.
Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il devrait y avoir un H normalement.
Ça bon, serait threading. Oui,
normalement. Expliquez-moi ça. Alors, concept compliqué.
En parlant, tout à l'heure, vous parliez du droit. Et si vous voulez, c'est très important puisque c'est un cadre d'un procès.
Alors, effectivement, ça peut arriver. Alors là, je veux pas défendre, je connais pas le cas précisément. Alors, le multithreading, c'est quoi ? Vous avez une connexion, on passe tous par des réseaux. Cette connexion va être dupliquée, selon les couches qu'on a. On en a plus ou moins. Donc, effectivement, une simple connexion peut en provoquer plusieurs. Sans que la personne en ait fait plusieurs. Voilà, donc ça peut arriver, effectivement. Là, après, on est dans le cadre du réseau TCP/IP, il faudrait vraiment voir des professionnels, on va dire, de ce milieu-là, mais effectivement, ça peut arriver. En fait, les connexions se démultiplient.
Et comment ils peuvent trouver cette
personne ? Avec du courage. Non, techniquement, il lui faut un professionnel du domaine, du réseau, vraiment un professionnel du domaine. Il n'y a que ça, parce que sinon, ce sera trop compliqué. Il faut vraiment quelqu'un qui puisse répondre par des actes, c'est-à-dire en le montrant, en vraiment expliquant au cas par cas. Parce que sinon, oui, c'est... Puis ça peut aller loin. Donc, oui, c'est malheureusement. Alors, je vais vous citer un exemple. J'ai travaillé au CNED. Le CNED, bien sûr, a une image à respecter. Jusqu'au jour où on reçoit un mail de la direction, on était à la direction générale, hein, mais je veux dire, plutôt du ministère, qui nous dit « ce serait bien que vous enleviez de ce site pornographique ». Vous doutez bien que, bien sûr, on est allé s'inscrire sur un site porno. Hein, on avait que ça à faire dans nos heures de travail. Ça veut dire que des gens peuvent le faire. Que voulez-vous que je fasse ? J'irai, on peut pas interdire les gens de faire n'importe quoi. C'est compliqué. Ah, ça peut arriver. Alors, justement, je fais un aparté sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires. Je le comprends. Je veux dire, après, j'ai rien contre ça. Moi, je faisais partie des gens qui étaient réfractaires. Alors, mon deuxième livre est sur le sujet, donc j'ai bien été obligé de m'y mettre. Mais pour le coup, je m'y suis intéressé et je vois que c'est une force. Mais là encore, il ne faut pas l'exploiter n'importe comment. Sauf que, quand j'étais au CNED, il y avait des pages CNED qui étaient créées, mais qui n'étaient pas nous. Alors nous, on faisait monter au ministère, on leur disait, ce serait peut-être bien qu'on ait un contrôle sur les pages du CNED. Parce que là, les gens disent ce qu'ils veulent, ne répondent pas aux questions qu'on leur pose, et ainsi de suite. Donc c'est l'image du CNED qui en pâtit. J'ai fini mon contrat là-bas, et quelques mois après, ils ont pris ce qu'on appelle donc un community manager, et aujourd'hui, ils gèrent les pages du CNED sur Facebook et Twitter. C'est-à-dire que le plus risqué, c'est de ne pas y être quand on est une agence. Non pas de ne pas y être pour communiquer, mais que quelqu'un usurpe notre marque, en gros, et en fasse n'importe quoi. Donc le mieux, c'est d'y être, quitte à bloquer le compte, à ne pas s'en servir, on va dire. Mais au moins le créer pour dire, personne n'ira le faire. On est rendu à ce point-là. Moi, demain, je peux me créer la page Adidas, hein, et puis je vous dis ce que je veux sur Adidas. Vous ne savez pas qui a créé la page. Voilà, je suis un grand fan, j'ai plein de photos, ça va être génial. Donc et puis moi, je fais un bad buzz sur Adidas et bon, je ne les ferai pas couler, mais je peux leur faire du mal. Oui, c'est tout frais. Ça a quelques mois, hein, seulement. C'est tout frais. Maintenant, ça, avec les marques françaises, c'est un peu plus compliqué. Et là encore, on parle d'Adidas, on parle de ces marques-là. Mon agence, les agences des gens, les entreprises qui sont ici... Je doute qu'elle soit à ce stade-là. Maintenant, ça s'améliore, c'est comme tout, chaque chose en son temps, ça progresse. On arrive vers des choses de plus en plus qualitatives, de plus en plus sécurisées, mais l'entre-deux peut faire mal, et ça peut aller très vite. Donc à nous de faire attention pendant cette phase-là, et comme je dis, le mieux, c'est parfois de créer. Voilà, vous créez, vous ne servez pas, c'est pas grave. Au moins, personne d'autre l'aura. Et puis même, ça peut aussi... comment dire, ça peut freiner aussi les gens. Vous savez, demain, vous voulez créer une agence, vous cherchez le nom de votre agence. Alors, vous allez taper sur société.com. D'ailleurs, en termes de légalité, ils sortent tous les chiffres, je trouve ça un peu limite. Mais pour le coup, vous tapez, bon, bah, la marque existe. Parfois, bah, ça ne ressort pas. Vous dites, bah, l'entreprise, elle ne doit pas exister. Faux, elle a peut-être un nom d'usage qui est déjà celui-là. Donc, on va regarder si le nom de domaine existe. On va aller voir sur Facebook si la page existe. Eh bien, parfois, c'est intéressant justement d'avoir créé la sienne pour que la personne se dise « Ah ben mince, ça existe déjà, je ne vais pas prendre ce nom-là. » Sinon, vous vous retrouvez avec des doublons et ce n'est pas toujours rigolo. Donc c'est effectivement, on ne le voit pas au début. Au premier abord, on n'y fait pas attention, puis c'est du temps, c'est tout ça, c'est, voilà, c'est pas rigolo. Mais c'est quand après on le subit qu'on se dit « Ben mince, hein, les 5 minutes d'inscription sur Facebook, ben, j'aurais mieux fait de les faire. » C'était pas grand-chose, quoi. Et finalement, ben, on le paye. Alors, tout ça on l'a dit, je vous le passe, hop, parce que sinon on est là demain. Donc, j'ai rien contre vous, hein, c'est qu'il y a une conférence après, donc j'ai pas le choix. Alors, quand on va faire notre identité numérique, alors là je vais parler du cas Mathieu Chartier qui veut vendre son livre. Vous voyez, vraiment le professionnel, on va dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver un pseudo reconnaissable, dans l'idéal à peu près le même partout, pour que justement mon image soit, on va dire, dupliquée sur Twitter, Facebook, Google+, et je vous épargne tous les autres. Alors très souvent, dans des cas comme le mien, on va prendre notre nom, hein, on ne va pas s'embêter, mais vous avez des gens qui se créent une identité. Donc par exemple, dans le référencement, il y a une fille moi, que je connais très bien qui s'appelle Miss SEO Girl. SEO, c'est le référencement en américain. Miss SEO Girl, cette fille-là, qui s'appelle Alexandra Martin, vous voyez, qui n'a à peu près aucun rapport avec son pseudo, s'est créée un personnage, à tel point qu'aujourd'hui, elle est hyper connue en France, juste là-dessus. Bon, elle le mérite, là, pour le coup, elle a des vraies qualités pour être connue. Elle ne s'est pas mise toute nue hein, pour y arriver. Donc là, c'est intéressant qu'elle ait toujours le même pseudo. C'est-à-dire que si moi, je veux chercher Alexandra sur Twitter, je vais taper Miss SEO Girl. Et je sais que c'est elle, j'ai pas de doute. Donc à nous de trouver ce pseudo, ou notre nom tout du moins, et d'en faire quelque chose de bien. On va trouver un avatar, ou un logo, ou une photo, bien sûr dans le cas de quelque chose de personnel, si possible la même, sur les profils du même type. Pour que là encore, on nous repère très vite. Rien qu'à la photo, on sache que c'est nous. Donc Nike l'a bien réussi avec une simple virgule. Hein. Donc vous voyez, c'est à nous de trouver le logo qui fait qu'on pourrait le retenir. Et ce n'est pas forcément les logos les plus compliqués qui sont les plus mémorisables. Et puis enfin, bah, trouver, comme je dis, un concept qui va faire, tant qu'à faire, un buzz positif. Alors quand je dis un buzz, je vais énormément relativiser la chose. Chacun sa réussite. Le petit coiffeur du coin, lui, son but, ce n'est pas d'avoir 100 000 abonnés sur Twitter. Peut-être que s'il en a 300, 400, c'est une réussite. Je veux dire, il faut arrêter de parler en nombre. Trop souvent, les gens vont même jusqu'à acheter des faux abonnés, des choses comme ça, pour dire, ben moi, j'ai 2000 abonnés. Oui, c'est très bien, ça me fait une belle jambe. Mais si tu en as 2000 qui ne t'aiment pas, puis limite qui ne te connaissent pas, puisque c'est des faux comptes, c'est comme si tu en avais zéro. Vaut mieux que tu en aies 200 et qu'ils soient vraiment fiables. Donc le chiffre ne fait pas tout. Chacun doit y aller à sa vitesse, ça prend du temps, avec son respect, et à terme, ça paye. Sauf que, une fille comme Miss SEO Girl, par exemple, elle attire des convoitises, surtout les jalousies. Il y a des gens qui vont dire, bah, elle, j'ai envie de la détruire parce que moi, j'aimerais bien la place. Et là, vous aurez toujours des gens qui vont vous faire le bad buzz, qui vont critiquer, qui vont se permettre de faire des choses comme ça. Alors, dans le référencement, par exemple, la personne la plus connue en France s'appelle Olivier Andrieux, le maître, Dieu, comme on dit souvent. Donc, la personne la plus importante. Vous entendez aujourd'hui des jeunes hein, de mon âge qui vont vous dire « Oui, Olivier Andrieux, tu sais, il est pas top. » Faut pas oublier d'où on vient. Hein. La première personne qui a inventé le mot référencement en France, c'est Olivier Andrieux. Donc c'est quand même facile qu'un jeune vienne dire qu'il est rien, limite, tout simplement parce qu'il veut prendre sa belle place, lui, alors que lui est certainement quelque chose à côté. Finalement, il lui doit tout, quoi. Moi, j'ai écrit un livre sur le référencement, mais je n'oublie pas d'où je viens. J'ai tout appris grâce à des gens comme Olivier Andrieux. C'est pas pour autant que je vais leur cracher dessus parce qu'aujourd'hui j'ai un livre et que j'aimerais avoir la bonne place. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est ridicule. C'est ça qui est ridicule. Donc à nous d'essayer de faire quelque chose de bien et de pousser. Alors vous avez des outils qui vous permettent de générer des pseudos. Je vous en ai cité quelques-uns ici. En fait, vous allez dans une seule fenêtre avoir plein de pseudos différents pour voir s'ils sont libres. Comme ça, au moins, vous arriverez très vite à trouver ce qui est bien. Enfin, pour les mots de passe ou les choses, les manières de se connecter, vous aurez des choses comme l'OpenID, Facebook Connect. Vous savez, maintenant, vous cliquez sur Facebook pour vous connecter, ce qui vous permet de vous connecter à plein de sites. Ça, ça pose des vrais problèmes de sécurité. Puisqu'effectivement, très souvent, quand on se connecte la première fois par ce type de service, il va récupérer les infos de Facebook, opinion politique, hein, tout ce qu'on citait tout à l'heure. Il va les récupérer, lui, il va les insérer dans le profil si ça correspond, puis il va juste vous demander de compléter les quelques cases qui manquent. Alors là encore, connectez-vous, quand c'est possible, avec le profil qui s'y prête le mieux. Si vous avez, par exemple, Facebook et Twitter, vous savez que votre Twitter, c'est très pro, puis Facebook, il est un peu trop perso. Ben, inscrivez-vous plutôt en prenant le Twitter, qui d'ailleurs recueille moins d'infos qu'un Facebook, donc moins de risques. Comme ça, vous dites au moins, j'ai moins de chances que les données, on va dire, problématiques, soient dans les mains des personnes mal intentionnées. Donc ça, effectivement, à nous de le faire. L'idéal est bien sûr de créer un compte manuellement et de donner que ce qui intéresse le service en ligne. Donc ça, c'est de la sécurité, mais tous les jours, on le fait, ça, tous les jours. Et tous les jours, on ouvre des portes. Donc, il faut vraiment y faire attention. Hop, bon, la petite image, tac. Alors bon, les mauvais choix, on le sait. Premier choix, ça va entraîner un bad buzz ou une réputation négative. Comme vous le disiez à juste titre, il va falloir beaucoup de temps pour la régler. Donc ça, c'est problématique. Une perte de clientèle quand c'est le cadre pro, ça peut aller très vite. Une perte d'emploi dans un autre cadre pro, bien sûr, ça peut arriver. Hein. Combien de personnes sur Facebook se sont retrouvées sans emploi ? Parfois, ils l'ont bien cherché, je le reconnais. Et puis, bien sûr, tous les problèmes juridiques, là, on en a parlé. Donc, à nous de faire attention. Donc, ce qu'on peut faire, et ça, c'est plus ce qui va vous intéresser, je pense, c'est comment on va se suivre. Comment on va savoir comment on parle de nous, si on parle de nous, et bien sûr, si ça en bien ou pas. Donc, on a plusieurs outils. On va avoir ce qu'on appelle les moteurs de recherche de personnes. Donc, en fait, c'est tout simplement des moteurs de recherche, mais qui recherchent des noms, tout simplement. Donc, il y en a plusieurs qui existent, je vous en citerai quelques-uns après. Des outils statistiques, Google Analytics, Xity, il y en a plein, le plus connu étant Analytics. Donc, dans ces outils-là, vous pouvez parfois voir sur quelle page les gens vont, quels mots ils ont tapé pour vous trouver, même si depuis peu, ça a légèrement disparu, on va dire. Mais vous pouvez trouver des informations comme ça qui vous permettent de savoir si on a tapé votre nom ou autre. Les outils d'alerte, c'est ce que je vous conseille très fortement. L'outil d'alerte, le plus connu, c'est Google Alert. Vous allez dessus, il va vous demander le type de, comment dire, de requête que les gens tapent pour tomber, pour que ça vous envoie un mail. Alors, tout bête, vous arrivez, vous tapez votre nom. Vous tapez votre nom, il va vous dire à quelle fréquence il envoie un mail, une fois par jour, par exemple, immédiatement, puis tous les mails qui parlent de moi. Ok, vous validez. L'alerte est créée. À chaque fois que vous allez être mentionné sur un site que Google repère, bien sûr, il va vous envoyer un mail en disant, ben voilà, dans cette page-là, votre nom a été cité. Ah, ben, je suis bien placé. Ben après, c'est du tri. Vous savez, on ne parle pas de moi tous les jours, et je le souhaite, ou tout du moins, pas sur Internet. Je ne suis pas assez connu quand même. Donc, pour le coup, quand vous en recevez, je ne sais pas, 3 dans la journée, par exemple. Très vite, vous voyez si c'est de vous qu'on parle ou pas. Mais à la limite, c'est mieux d'en avoir 3 que pas du tout. Vous voyez, à choisir, c'est mieux. Là, je parle bien du cas où la personne veut savoir quand même qu'on parle d'elle. Mais c'est aussi une manière de se sécuriser. Savoir si on ne parle pas de nous en mal aussi. Et enfin, on a ce qu'on appelle les outils de notation. Alors, les outils de notation, ce n'est pas parfait, mais c'est des outils qui vont regarder votre notoriété sur les réseaux sociaux. Comment vous êtes actif, mais surtout comment les gens parlent de vous. Est-ce qu'ils partagent vos infos, vos photos, vos statuts ? Est-ce qu'ils retweetent ? Est-ce qu'ils font des choses comme ça ? Et à partir de là, ils peuvent calculer, selon des algorithmes, si vous êtes plus ou moins connu ou non. J'insiste sur un gros détail, certaines entreprises aujourd'hui vont voir ces notes-là avant de vous embaucher. Si vous avez une note, je ne sais pas, de 15 sur 100, ils vont dire non, la personne, elle n'est pas apte. Ça a fait d'ailleurs une grosse polémique, c'était Quechua, la marque de Decathlon, qui avait demandé quelqu'un qui travaillait dans le web, elle avait dit « je veux un score clout », c'est un des outils que je vous montrerai après, « je veux un score minimum de 30 ». Si vous n'avez pas 30, même pas la peine d'écrire. Pour moi, c'est grave. Après, je vous laisse penser ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est gênant. C'est vraiment gênant d'en arriver là. Donc ces outils-là, bah, moi je ne l'utilise pas dans ce cadre-là, mais c'est intéressant de savoir qu'on a plus de 30. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours bien. Oui, là c'est gratuit. Tout ce que j'ai cité est gratuit. Tout ce que j'ai cité est gratuit. Donc là, bah, justement, ce que j'ai fait, si vous voulez la présentation, je pourrais vous la donner hein, sur clé USB. Hein. Donc là, je vous cite des noms de moteurs de recherche de personnes. Yatedo, 1, 2, 3 people, c'est les plus connus. Ces deux-là sont les plus connus. Donc vous tapez un nom, puis il va vous dire s'il vous connaît. Il va vous renvoyer vers des profils, notamment Facebook, et ainsi de suite. Ce qui est très rigolo, c'est que si vous tapez le nom de la personne sur Facebook, parfois vous ne la trouverez pas. Puis par ces moteurs-là, vous la trouverez. Vous trouverez le profil Facebook. Donc ces moteurs-là sont plus puissants finalement presque que le moteur de Facebook en lui-même. Donc ces outils-là sont pas mal. Pour les outils d'alerte, je vous en ai cité quelques-uns. Donc Google Alert, Alerty, Infoxicat, il y en a à foison. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je commence toujours par les plus connus volontairement. Donc comme ça, c'est plus simple. Oui, je sais, c'est pas écrit très gros. Donc Alerty, hein, comme alerte, mais avec un i, tout simplement. Et puis après, Google Alert. Notez cela. Honnêtement, Google Alert, il est très, très bien. Alors je vais enchaîner, hein, je suis désolé. Hop, je vous passerai ça, hein, s'il faut, je vous dis. Enfin pardon, si ça marche, je suis. Alors les outils de stats, il y en a plein, donc j'ai cité Google Analytics, mais après on en a certains qui sont spécialisés. Alors quand j'ai mis Facebook, c'est tout bête, c'est que Facebook a le sien, a son propre outil de statistique pour les pages pro. C'est pour ça que je l'ai cité. Après Uberview, Overgraph, SamePoint, il y en a plein. C'est des outils qui vous permettent d'analyser ce que les gens ont tapé, partagé ou autre sur les réseaux sociaux. C'est plein d'outils de suivi. Très utile quand on est pro, je l'avoue. Moins quand c'est pour le quidam lambda. Et les outils de notation, je vous en avais cité certains. Donc le plus connu, c'est Clout. Donc celui-là, vous êtes inscrit en 2 secondes, c'est très bien. Il va vous donner une note, tout ça. C'est pas très intrusif hein, comme outil. C'est pas inintéressant d'être dessus puis de voir de temps en temps si ce que vous faites marche sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas gênant. Moi, ce que je trouve plus gênant, c'est que des entreprises l'utilisent pour vous recruter ou non. Ah ben, là encore, je sais pas, je suis pas un pro du droit, mais pour moi, voilà, c'est illégal. Donc, voilà. Voilà. Alors bien sûr, tout dépend le métier. Si c'est pour être maçon, je pense qu'une note de 30 sur Claude n'est pas très utile. Mais dans l'ensemble, effectivement, aujourd'hui, on le regarde. Ah ben, c'est leur but. Ma compagne l'a vécu tout à l'heure. Elle était en plein entretien, en plein milieu de l'entretien. La personne est allée voir sur Facebook s'il était protégé, en plein milieu de l'entretien, pour lui dire en face, quoi. Parce qu'elle avait mis dans son profil qu'elle connaissait un peu le web et tout, il a voulu vérifier direct, hein. Il est allé voir tout de suite, il a dit « bon, ben, ça va, c'est protégé, il n'y a pas de souci ». Mais vous voyez, et là, imaginez en plein entretien comment vous vous défendez face à ça. Vous êtes foutu hein, derrière, donc il faut vraiment faire attention à ça. Oui. Là, non, parce que là, j'ai pas de connexion directe avec eux. Ou sinon, si, je fais le tour ici, puis j'y vais. Mais, non, là, j'ai pas de connexion directe avec eux, donc je peux pas. Après, par le Wi-Fi, peut-être. Mais il faudrait donc que je monte au Wi-Fi d'ici et que je redescende. Donc, je pense que la conférence sera finie. Avec mon talent, il va falloir un moment. C'est très, très longtemps. Ah, c'est faisable. En fait, c'est simple. Tout est faisable. C'est très connu, c'est une vieille histoire, mais Kevin Mitnick, c'est un des pirates les plus connus au monde, il avait pris le contrôle de tous les téléphones aux États-Unis. Il pouvait relier toutes les lignes entre elles, mettre tout le monde sur écoute, ainsi de suite. Il avait pris le contrôle juste quand il était en prison de toutes les cartes bancaires des États-Unis. Son but n'était pas d'acheter, en prison il n'avait pas acheté grand-chose, mais le but c'était de montrer le système est faillible et on peut rentrer dedans avec très peu de choses. Ça va, il n'est pas aujourd'hui, c'est pas le plus à plaindre, mais bon, il s'est quand même tapé quelques années de prison. Donc, le pire, hein, pour l'anecdote, je le défends pas, hein, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais volé. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours montré. En fait, il a pris de la prison parce qu'il s'est retrouvé chassé par un expert en sécurité et qu'il a joué au chat et à la souris avec lui. Limite, ce qui lui a coûté le plus cher, c'était les délits de fuite, ces choses-là. Mais c'est ça qui est quand même grave, quoi. Mais bon, après, quand on ne peut pas contrôler quelqu'un comme ça, parce qu'il faut être clair, hein, quelqu'un comme Kevin Mitnick, vous pourrez lui mettre n'importe quel cryptage, il vous le décryptera, parce que c'est quelqu'un de doué, tout simplement. Il y a des doués dans tout. Ben, lui, c'est en informatique. Des gens comme ça, on ne peut pas les contrôler. Ça nous fait peur. Donc, prison. Voilà. Prison. Mais oui, bon. Moi, il m'inquiète moins que d'autres. Hein. Je vous avoue, il m'inquiète moins que d'autres. Maintenant, c'est sûr, je n'ai pas envie qu'il vienne voir ma carte bancaire tous les jours. Mais il le fera. S'il a envie, il le fera. Alors, avec les smartphones, ça doit être du bonheur. Donc, parce que c'était avant. Hein. C'était avant cette époque-là. Alors, le Web 2, très rapidement. On est dans un espace ouvert. À partir de là, on a donné aux gens le droit de s'exprimer. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Donc, on leur a donné le droit. Et à partir de là, on a ouvert les réseaux sociaux. Tout le monde discute. Tout le monde est copain avec tout le monde. J'ai jamais eu autant d'amis, moi. Bon, peut-être j'ai jamais eu autant d'hypocrites. Mais j'ai eu... En chiffres, j'en ai plus, en tout cas. Donc, on peut partager tout ce qu'on veut. Mais ça entraîne, bien sûr, tous les effets pervers. Diffamation, injures publiques, et le piratage, et voilà, et tout ce qu'on a cité. C'est là où le problème devient grave. On est en train de parler actuellement du cloud. Vous savez, tout va être dans le nuage, à distance. Donc on n'aura plus rien sur le PC, on viendra juste, on cliquera sur un truc, puis tout sera à distance. Très bien. En termes de sécurité, je trouve que c'est le bonheur. Vous dites aux pirates, ben voilà, plutôt que de pirater chaque PC, pirate juste le cloud. Et tu auras tout. Bien vu, c'est... Très bon message, très bon signal qu'on envoie aux pirates. Donc, je fais le naïf volontairement quand c'est comme ça. Mais ça part d'un bon sentiment, c'est pas inutile que ça existe. Mais moi, je fais partie des gens qui mettent très, 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 très peu de données sur le cloud. Traduction, j'en mets quand j'ai pas le choix. Voilà, sinon, c'est niette. Je préfère que ce soit sur mon PC. Puis on réglera ça en face à face. Mais là, sinon, non. Donc, ces choses-là, on tend vers ça. Hein. Bientôt, les machines à pain elles seront connectées à Internet, puis on tapera le programme qui va chercher sur le site de la marque, puis il nous lancera la minuterie, et ainsi de suite. Et puis, il y aura un pirate qui passera au milieu, puis qui dira, moi, la recette, je m'en fous un peu, par contre, les données, ça m'intéresse. Donc ça, on l'aura, on tend ça, on donne le bâton pour se faire battre, à nous de nous protéger. Ben c'est ça, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc de toute façon, chaque PC est un serveur en gros. Hein. Ça fonctionne comme ça, on va dire, quand on est sur Internet. Chacun est son propre serveur. Donc après, on se balade dans la toile et puis on s'amuse. Il y a quand même des blocages, des Windows comme Windows 7 ou 8 sont beaucoup plus protégés qu'un Windows 98 ou XP, ouais, des choses comme ça. On tend quand même vers le meilleur, j'insiste là-dessus. Mais les pirates sont aussi de plus en plus bons. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils sont de moins en moins à être de plus en plus bons. C'est surtout ça qui me plaît. Parce qu'il ne faut pas croire, les gamins ont beau naître avec un portable greffé dans la main, ça ne leur donne pas les solutions. Je veux dire, c'est, voilà. Et puis sur Internet, un vrai pirate ne donnera très, 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 très rarement, pour ne pas dire jamais, une solution. C'est typiquement le magicien. Il ne va pas dévoiler son tour. Voilà. Sinon, tout le monde va le faire. Alors, imaginez, je mets moi demain, comment pirater Facebook en 2 minutes? Je fais un site, il va vite remonter dans Google, je ne vous inquiète pas. Ça existe, mais le problème c'est que les 3/4 ne marchent pas. Donc en fait c'est ça. Donc en fait il y en a beaucoup qui font le buzz avec ça, vous générez de la visite, vous mettez des pubs puis vous touchez de l'argent. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le content spinning en anglais. C'est-à-dire que vous générez des contenus qui vont générer du buzz et générer de la visite. Et par ces visites-là, la pub vous génère de l'argent. C'est bon, tant mieux pour ceux qui ont trouvé le concept, mais moi je ne suis pas fan. Après, c'est une manière de voir les choses. Alors le droit du web, je ne suis pas un expert. Il y en a un tout petit peu, il y a des lois sur l'informatique, on va dire. Mais sur tout ce qui va être identité numérique, on se réfère au droit commun. Donc tout ce qu'on connaît dans le droit commun. Après, la jurisprudence fait des petites différences aujourd'hui. Mais hormis ça, ça va. Alors j'ai connu des cas il n'y a pas longtemps encore. Hein, donc c'est, vous savez, à force de durer, on en rencontre quoi. Donc c'est, faut connaître son droit, tout simplement, mais le droit commun. Donc voilà, qu'est-ce qui nous touche. Alors après, je suis pas. Si, en fait, le droit à l'image. Le droit à l'image, par exemple. Enfin, droit à l'image, façon de parler, parce que c'est droit à l'image, droit d'auteur. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet? usurpation d'identité, je le cite justement après. Donc voilà, ces choses-là, on a le droit commun. Maintenant, avec le recul, comme je vous disais, on a 20 ans de web. Donc l'avantage, c'est que la jurisprudence, on va dire aujourd'hui, commence à devenir précise. Donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Pendant tout un temps, ce qui a été compliqué, c'était le piratage des données. Sur YouTube, vous preniez le spectacle de quelqu'un, vous coupiez le sketch qui vous intéressait, puis vous le mettiez. Le gros problème de la jurisprudence, c'était de se dire, est-ce que YouTube est responsable, parce qu'elle accepte en gros la vidéo, ou est-ce que la personne qui publie est responsable, parce que elle n'a pas à publier ça. Au début, elle a puni YouTube. Et après, elle s'est dit, non, c'est débile, je vais punir YouTube tous les jours, quoi. C'est infini. Donc je vais plutôt essayer de remonter aux personnes, grâce aux adresses IP que YouTube récupère, bien sûr. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, très souvent, YouTube va vous envoyer un mail en vous disant « La musique qui est dans votre vidéo ne respecte pas les droits machin » ou « Vous voulez vous vérifier ?» Enfin, aujourd'hui, ils font tout ça pour se prémunir contre ces problèmes-là. Pour dire « Nous, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de plein de contenu. » Donc ça, effectivement, à nous de nous protéger. Un des problèmes les plus importants, la pédopornographie. Donc on avait le projet de loi LOPSI 2 qui était prévu pour ça. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je vais être honnête. Mais là, clairement, c'est un fléau, un vrai fléau. J'ai un annuaire web, je dois avoir à peu près 100 sites dedans. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus l'annuaire web du monde. J'ai eu 2 sites qui se sont inscrits qui étaient pédopornographiques. Quand on s'inscrit, moi je reçois un mail qui me dit le site traite de ça, et ainsi de suite. Je le vois très vite, en fait. Mais j'en ai eu 2, quoi. 2 sur 100. Ça fait quand même beaucoup. Je ne savais pas que le sujet était si porteur. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc bien sûr, vous doutez bien qu'ils n'y sont plus. Mais et d'ailleurs, en général, moi, je fournis l'email et le message et ainsi de suite aux autorités compétentes. Après, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je fais mon travail, je fais ma partie du travail. Ça n'a rien à faire là. Point. C'est tout. Donc là, effectivement, des lois là-dessus, c'est en train de se développer, mais ça met un peu de temps. La loi la plus récente qui touche bien sûr tout le numérique, c'est la LSEN. Donc celle-là, je ne peux pas vous la détailler, le but c'était pas de faire une conférence sur le droit, mais ça touche vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses autour de l'identité numérique, des choses comme ça. En fait, on va dire que ça donne des précisions sur le droit commun. Donc ce n'est pas inintéressant d'aller y voir, d'aller jeter un œil. Pardon ? Ah oui, pas de souci, pas de souci. Donc, de toute façon, les trois quarts, c'est le droit commun. Et après, ce qu'il faut, c'est surtout suivre la jurisprudence. Donc, un exemple. Je me retrouve à faire, en tant que, on va dire, particulier, je me retrouve sur mon blog à faire un article sur un service. J'étais mécontent, voilà, je suis comme tout le monde. Puis je fais un article. Sauf que, et là, j'en suis un très bon exemple, on va vite dans la diffamation, surtout quand on est en colère. Donc, vous faites cet article-là. Et puis, un an et demi après, cette boîte m'écrit, sur Google, l'article il est remonté, donc ça ne fait pas de la bonne pub. Ils viennent m'écrire pour me dire, vous supprimez l'article. Je leur ai répondu, la prescription, c'est 3 mois. Voilà. Et vous voyez, je ne suis pas méchant, j'ai réécrit l'article. Je leur ai dit, je le réécris, ce qui relance le délai de prescription. Mais par contre, il y a eu un accord, entre guillemets, entre nous deux. J'ai dit, à partir de là, je le réécris, on va dire, en enlevant les... Il y avait un truc qui était diffamant, qui les gênait. Je dis, je l'enlève. Et à partir de là, les gens se font leur propre avis. Je trouve ça réglo. J'aurais très bien pu ne pas le réécrire. J'étais tout à fait dans mon droit. Je l'ai fait parce que, ils n'étaient pas méchants, la demande n'était pas méchante, puis ce n'est pas des monstres non plus. Mais pour le coup, ça mérite parfois qu'on connaisse la loi pour ne pas se retrouver dans la panade, on va dire. Alors, ça, c'est ce qui peut nous intéresser au niveau de nos données personnelles. Donc la loi informatique et liberté de 78, elle n'est pas récente, nous dit que l'on a en gros un droit d'action sur toutes nos données. Et ça se divise en plusieurs sous-parties. On va avoir donc un droit à la formation préalable, c'est-à-dire que théoriquement, sur les sites sur lesquels vous inscrivez, on est censé vous dire on conservera votre nom et ainsi de suite ou autre. Aujourd'hui, c'est devenu un peu implicite. Vous savez, on vous demande votre nom, on se doute bien qu'on va le prendre. C'est pas pour décorer. Mais normalement, on devrait le préciser. Le droit de curiosité. Alors celui-là, je vous avoue, je vous invite à le tester, ça pourrait être rigolo. Donc vous allez appeler un service, puis vous allez dire, au fait, t'aurais pas des données sur moi ? Je sais pas, je demande ça comme ça. Donc vous avez le droit. Ça va faire du téléphone. On n'est pas rendu au bout. Les droits d'accès direct ou indirect, c'est-à-dire que vous devez, dans chaque compte, pouvoir accéder à vos données personnelles directement, c'est le cas de Facebook, Twitter ou autre, ou indirectement, c'est-à-dire que s'ils ne proposent pas une interface qui le fait, vous pouvez les appeler ou les contacter pour leur dire « je veux accéder aux données que vous recueillez sur moi ». Là, le problème, c'est qu'on est en droit français. Facebook, lui, va dire « oui, oui, c'est ça ». Je suis très content de ta demande, ça me fait plaisir, mais non. Donc voilà, effectivement, c'est du droit français. On est limité à ce qu'on peut, quoi. Et ensuite, on a bien sûr les droits de rectification, d'opposition. Il y a des données qu'on peut forcer à cacher. Et le droit à l'oubli, s'il était respecté, ça se saurait. Le droit à l'oubli, ça s'appelle Google. Donc avant que Google l'enlève, il faut un moment. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Malgré tout, en France, on est censé respecter ça. Et c'est le « censé » qui est le mot le plus important de ma phrase. Si on respectait rien que les quelques articles que j'ai mis là, ce qui est mais minuscule, je peux vous dire qu'on serait déjà tranquille et on ne serait même pas là en train de discuter. Donc ce serait vite fait. Alors que faire en cas d'attaque? Bon, bah, les classiques, c'est surtout ça que je voudrais que vous reteniez, ce site-là qui vous permet de signaler les personnes voilà, qui feraient des choses pas forcément intéressantes, on va dire. Donc ça, c'est important. Donc comme je dis souvent, gardez votre calme face à un éventuel agresseur, comme moi je l'ai vécu. Même si vous n'avez pas forcément ma capacité à trouver l'IP tout de suite ou autre, gardez votre calme, ça ne sert à rien de s'énerver, ce n'est pas ça qui va trouver la solution. Le mieux, c'est souvent d'aller contacter les services compétents. Exemple, la personne met la vidéo sur YouTube, puis vous menace. Sur YouTube, vous avez toujours signalé le profil, signalé la vidéo, et ainsi de suite. Vous commentez. Excusez-moi, voilà, c'est moi qui suis sur la vidéo, ou tout du moins la personne me vise, c'est pas moi, enfin voilà, je suis embêté, je suis en train de subir une attaque de cyber-intimidation, est-ce que vous pouvez retirer ce contenu? YouTube, ça a dû mettre 1 minute 30 à peu près pour que la vidéo soit retirée, dans mon cas. Donc ça, c'est très très réactif. Donc faisons ça, ça sert à rien de nous énerver, on a des outils qui nous le permettent. Donc on le fait calmement et ça marchera très bien. Et puis bien sûr, bah après, essayer de discuter avec l'agresseur, si possible, choper son IP, enfin tout du moins, lui faire comprendre qu'il n'est pas forcément en position de force et que le mieux, c'est peut-être qu'il arrête. Voilà, que ça ne sert à rien d'insister. Ça, c'est le mieux. Ce qui est important, c'est de réagir promptement. Voilà, il ne faut pas attendre 15 ans, sinon on est mal. Donc bien sûr, on essaye d'agir vite et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais vraiment, comme je vous dis, le plus important, c'est cette adresse-là pour signaler la personne, si vous avez son nom, son email, enfin, quelque chose qui peut tout du moins valoir quelque chose. Eux, après, bah, vous avez fait votre travail, ils gèrent ou non.
Il n'y a pas des sites où vous pouvez aller sur votre ordinateur pour trouver l'information plus rapidement que nous, quand on n'y connaît rien?
Pas que je sache. Pas que je sache. Certainement, mais pas que je sache. Ben, le problème, c'est que ça veut dire que ces outils, eux, font des intrusions. Donc s'ils font des intrusions, c'est que votre ordinateur est ouvert, entre guillemets, donc il y a un problème. Donc voilà, c'est mieux qu'ils ne puissent pas. C'est mieux qu'ils ne puissent pas. Alors, pour être confidentiel, alors je fais confidentiel en général, vous allez déjà paramétrer les comptes, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on met comme données, pourquoi, et ainsi de suite. Donc ça, de l'évidence. Dans les navigateurs, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la navigation privée. Ce qui vous permet de ne pas laisser de traces. Alors, c'est tout bête. Quand vous allez ouvrir Firefox, Chrome, n'importe quoi, vous allez dans Fichier. Vous savez, la partie Fichier qui est en haut. Et vous allez avoir souvent ouvrir un nouvel onglet de navigation privée. Ou un nouvel onglet privé, ou ainsi de suite. Vous allez avoir ça selon les navigateurs. C'est un onglet classique. Vous allez faire la même recherche que d'habitude. La différence, c'est qu'il ne laisse pas de traces. Donc c'est aussi ce qui est conseillé quand vous allez à l'étranger ou autre, puis que vous connectez dans un plan net ou n'importe quoi, utilisez ce procédé-là, vous ne laissez pas de traces, c'est propre, puis vous partez tranquillement. Vous savez, c'est typiquement, je ne laisse pas mon papier dans la nature, je le mets dans la poubelle, bah, c'est un peu pareil, quoi. Je viens sur l'ordi de quelqu'un, bah, je ne laisse pas de traces, lui il est content, moi je suis content, si quelqu'un pleure, pas moi. On essaie de vider l'historique, si possible, de l'ordinateur, dans l'idéal. Ça, c'est surtout dans le cadre, justement, d'un plan net ou autre. C'est pas forcément intéressant que les gens y voient d'où on vient. On vide le cache du navigateur quand on le peut. En fait, ça se fait dans les mêmes options, hein. Donc c'est pas compliqué. On évite de partager les dossiers sous Windows. Vous savez, on peut partager pour se connecter à distance, comme ils disent. À chaque fois qu'on ouvre ça, on ouvre une brèche. Donc tant qu'à faire, on évite. Alors là, le coût des proxys, je parle dans un jargon un peu plus poussé, je vous ai donné deux sites. Le premier est facile à retenir, cachemoi.com. Donc en fait, vous allez là-dessus et en fait, vous allez commencer à naviguer à partir de ce site. C'est-à-dire que quand vous arrivez dessus, il y a une espèce de moteur de recherche, en gros, vous allez le faire et lui, entre les deux, il vous cache votre adresse IP. Il passe par une autre et il en génère dynamiquement. Alors là, avant qu'on vous retrouve, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Et puis bien sûr, dernière technique, on va se référer au grand chef, la CNIL, et puis on va aller voir bien sûr ce qu'on peut faire. Donc là, il y a plein de petites astuces. Je vais être honnête, ils n'en donneront pas beaucoup plus que là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup plus que là, tout simplement. Et ce que j'ai mis en bas, ça si vous pouvez le respecter, c'est un gros détail. Oui, pardon. Ah, si c'est chez vous, c'est pas trop gênant. À moins que quelqu'un soit rentré sur votre PC, bien sûr. Mais par contre, dans le cadre professionnel, si vous le videz rarement, moi je passe derrière vous, historique, je sais tout ce que vous avez vu. C'est surtout ça qui est dérangeant. Voilà, c'est surtout ça. À la maison, à part si quelqu'un rentre chez vous, voilà. À part ça, non, parce que c'est pour vous l'historique. C'est un outil à la base, c'est plus... ça aide pas. Je vous cache pas, ça prend de la place sur le disque dur. Oui, ça bien sûr. Mais c'est pas méchant. C'est pas trop méchant. Donc comme je disais à la fin, en fait, c'est surtout les mots de passe. Vous savez, aujourd'hui, on peut les enregistrer. Alors dans certains navigateurs, pas trop de risques. Et encore. Mais je prends l'exemple de Firefox, moi j'utilise beaucoup celui-là. Quand vous les enregistrez, quand vous allez dans les options, il va vous mettre l'adresse des comptes que vous avez, votre nom d'utilisateur, puis en bas, vous avez affiché les mots de passe. Cliquez. Mais comme il est très sécurisé, il vous met une fenêtre en disant « Est-ce que tu es vraiment sûr que je les affiche ?» OK ou annulé. OK, boum, ils sont affichés. Très sécurisé, vous voyez. Donc en gros, ça y est, j'ai accès à tous mes mots. Enfin, les gens ont accès à tous mes mots de passe. Firefox. Sur les autres, pas que je sache. Tous ceux qui sont enregistrés. Donc c'est là où ça peut être intéressant, peut-être de temps en temps, de nettoyer, mais notez-les avant. Par exemple, vous les notez vite fait sur un papier, vous les effacez, puis de temps en temps, vous repartez avec des nouveaux mots de passe, et ainsi de suite. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de solution facile, quoi. C'est là, mais c'est vrai que sur Firefox, c'est un peu gênant que ce soit trop facile de les voir. Je vais même être plus sévère, on ne devrait pas les voir. Point. Ça peut nous aider dans un cas sur 1000, mais ça peut nous gêner dans 999 cas sur 1000. Donc c'est frustrant. Alors les réseaux sociaux, on y vient. Donc là, je vous ai mis quelques, j'ai pris les principaux volontairement, hein, parce que dans le livre, j'ai recensé près de 600 réseaux sociaux. Vous voyez, ça aurait été long de faire toutes les options de confidentialité des 600. Donc j'ai fait que les principaux. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est là où on va mettre le plus d'informations qui nous concernent. Donc ça va être là qu'on va devoir absolument se cacher. Donc on va dans les options. Sur Twitter, c'est dans paramètres, sécurité, voilà, et confidentialité. Vous avez quelque chose qui vous permette de protéger les tweets, cacher votre compte, et ainsi de suite. C'est toujours une première méthode qui est utile pour se cacher. Sur Google+, ça s'appelle sécurité, vous voyez, c'est très original les noms. Hein. Et Viadeo, mon compte, confidentialité, voilà, le même principe. Alors chacun a ses options, mais dans l'ensemble, on retrouve à peu près les mêmes. Ça, c'est absolument, je dirais même que c'est la première chose qu'on doit faire quand on va sur un réseau social. J'arrive, je remplis le profil avec ce que je veux bien montrer, et éventuellement, je cache quelques informations. Donc, à chacun de le faire. Alors, je vais me presser parce que je sais que ça va être suivi. Donc, guère plus, de toute façon. Guère plus, j'arrive au bout. Donc, c'est... Ouais, il pousse. C'est... On autorise l'application à prendre nos données, et ainsi de suite. Alors justement, il y a pas mal d'applications comme ça qui se retrouvent rejetées aujourd'hui de Facebook à cause de ces problèmes de confidentialité ou autres. Moi, ça fait partie des raisons qui font que j'utilise très très peu d'applications Facebook. Voilà, parce que, alors j'en ai quelques-unes, on en a tous forcément quelques-unes, mais je les limite au moins pour limiter la casse. Mais effectivement, ça c'est un vrai problème. Mais le problème des applications, c'est que c'est des gens comme vous et moi qui les codons. Donc en gros, j'ai Facebook qui lui est bien codé, puis on dit toi tu as le droit de coder une appli. Alors moi je code plus ou moins bien, hein, comme tout le monde, et puis je crée une faille, tout simplement. Alors parfois, Facebook crée ses propres failles, hein, ça arrive aussi. Ils sont humains, hein, ils sont comme tout le monde. Puis surtout, ils sont vachement attaqués. Faut être honnête, c'est quand même rigolo d'attaquer Facebook. Donc c'est surtout ça. Mais dans l'ensemble, les options... Je trouve qu'aujourd'hui, Facebook est le plus fourni en termes d'options de confidentialité. C'est juste qu'elles sont placées aux quatre coins du site et que c'est un petit peu problématique d'aller les trouver. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal fait. Donc justement, j'ai parlé du cas Facebook, où comme je disais, par défaut, on va dans confidentialité, puis c'est ici qu'on aura le filtrage, on gérera qui peut nous inviter ou non, et ainsi de suite. Mais après, il va falloir aussi aller dans compte sécurité. Et c'est là où on pourra faire les contacts de confiance, la double authentification ou autre. Mais il faudra aussi gérer les images. Donc il faudra aller dans images et puis gérer qui peut les voir. Et puis il faudra aussi aller dans l'historique personnel. Puis dire ça, j'ai envie que ça s'affiche, puis pas ça. Donc au final, ça aurait été tellement simple de faire filtrer, sévère, enfin strict, un peu moins strict, modéré, ainsi de suite. Au moins ça. Je pense que ce serait une piste d'évolution intéressante pour eux, c'est-à-dire de garder ce système-là, mais en plus de proposer 5 options, on va dire, de filtrage propre, quoi. Ce serait déjà pas mal. Là, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas, autant dire qu'il cherche une aiguille dans une botte de foin. C'est pas facile du tout, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, là, j'ai montré des exemples, justement, des petites captures. Alors, ce qu'on va faire, c'est nettoyer partout où on est inscrit. Donc ça, bah, surtout quand c'est dans le cas du personal branding, quand on veut se faire connaître, c'est sûr que si vous avez des comptes problématiques, si vous êtes en phase de recrutement, essayez de nettoyer les comptes qui peuvent poser problème, les photos un petit peu gênantes ou autres, ça serait pas mal, pour qu'au moins dans cette phase-là, on ne trouve pas des choses qui pourraient bah, malheureusement vous faire défaut. Donc ça, à nous de le faire. Là encore, c'est de la responsabilité, c'est tout. J'irais, je ne peux pas vous donner de clé, c'est à nous de le faire. On a des options qui nous permettent de nous aider, mais les photos bourrées, pour reprendre cet exemple-là, bah peut-être que c'est, faut pas les afficher. Aujourd'hui, sur Facebook, quand quelqu'un nous marque, quelqu'un d'autre dit qu'on est sur une photo, par défaut, ça l'affiche chez vous. Vous pouvez, y a une option qui vous dit, bah, dès que quelqu'un me marque sur une photo ailleurs, j'apparais pas, ça ne me la met pas dans mon profil. C'est une option à décocher, déjà ça vous enlève beaucoup de problèmes. Donc ces petites choses-là, il faut, ben voilà, faut faire option par option, hein. Il n'y a pas trop le choix, et puis passer. C'est clairement expliqué sur Facebook, c'est pas trop compliqué. C'est pour ça que justement je relativise quand on dit que les réseaux sociaux sont dangereux, c'est pas top, je vous dis pas que c'est bien, mais si on fait attention aux options, c'est pas encore hyper risqué. Là encore, sauf des pirates comme Kevin Mitnick qui chopperont de toute façon vos infos. Puis si c'est pas sur Facebook, ils les chopperont ailleurs. Donc de toute façon, par les impôts. Hein. Le site des impôts, voilà. Hein. On vous chope par là. Les cartes bancaires, ainsi de suite. Donc de toute façon, quelqu'un qui voudra vous avoir, il vous aura. Quelqu'un qui est doué, bien sûr. Hein. Et bien sûr, bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, tous les outils, la dernière étape, c'est de vérifier où on est, si on est, qu'est-ce qu'on voit. Je vais regarder dans Google Images s'il y a des photos de moi qui sortent, et si oui, lesquelles. Je vais, taper, par exemple, voilà, j'ai fait la conférence là, peut-être que des gens vont en parler. Bah, je vérifie d'ici 2-3 jours si des gens en ont parlé, et si oui, en bien, en mal. Est-ce qu'ils ont mis des photos qu'il ne fallait pas vous voyez, je ne sais pas, ce qui peut être préjudiciable. Et après, j'essaye de nettoyer. Je dis bien j'essaye. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui se spécialisent là-dedans, qui vous nettoient. Votre notoriété. Ils peuvent pas tout nettoyer. Ils peuvent pas tout nettoyer. Ils vont faire le maximum et c'est quand même relativement efficace. Ils vont contacter chaque service, dire bah, vous retirez ça. Ils vont faire respecter la loi, tout simplement. Ils vont retirer toutes les données gênantes, sauf que tous les sites étrangers, c'est problématique. Et encore faut-il que vous ayez encore vos comptes dessus. Donc c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est difficile de se supprimer du web, d'être un inconnu du web. Bon courage. Je crois que même un bébé a déjà une carte d'identité numérique, en gros, quand il naît aujourd'hui. C'est quasiment ça. On voit beaucoup de parents, d'ailleurs, qui créent des blogs sur leur bébé et tout. Génial. Plantez-lui le coup de couteau, c'est la même. Ça fait plus mal, quand même. Ça fait plus mal, hein, mais c'est à peu près pareil. Il faut quand même penser à ça. On vérifie, bien sûr, sa présence après le nettoyage. Donc, je vous ai montré des exemples. Sur Facebook, on peut faire « Qui peut voir mon contenu ?» Puis on va faire afficher en tant que. Vous allez taper le nom d'un ami et vous verrez ce que lui voit, comment il voit votre profil. Et ça vous permet justement de voir si ce que vous avez réglé est efficace ou non. Donc, théoriquement, il ne doit pas voir grand-chose, sauf un ami, bien sûr. Mais une personne lambda ne doit pas voir grand-chose. Et à partir de là, Facebook n'est plus vraiment un danger, à part ma photo de profil. Ah, j'en mets une autre. Et puis voilà, et puis le problème est réglé. Vous avez des gens aujourd'hui qui changent leur nom pour pas qu'on les trouve. Ouais, mais avec l'email, on peut les trouver. Alors décochez l'option. Et puis comme ça, au moins, là, c'est efficace. Ouais, c'est comme tout, faut toujours regarder toutes les options et à partir de là, on a des résultats. Et bien sûr, bah, quand on veut pas se faire voir, faut être discret. Donc bien sûr, pas dire, ah bah ouais, moi au fait, je me suis mis sur le site pornographique qui est là. Et c'est vachement bien. C'est, tant qu'à faire, on n'en parle pas. C'est aussi bien. Alors, je pousse forcément l'exemple un petit peu loin, mais on supprime les comptes, on essaye de nettoyer proprement et surtout de pas forcément en parler partout. Il n'y a que comme ça que ça va se retourner contre nous. La dernière étape, celle-là est plus technique et c'est la plus efficace, c'est la désindexation. Sortir des moteurs de recherche. Lui dire, bah, cette page, je ne veux plus qu'elle apparaisse. Et ainsi de suite. Là, les entreprises, effectivement, peuvent vous aider à faire ça. Mais ça prend du temps et il faut que Google le respecte. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'on n'est pas Google, nous. Hein. Donc, on lui demande, on lui propose. Maintenant, il ne le fait pas. En général, ça va. Si vous écrivez à Google, Google est réactif. Il y a plein de formulaires hein, sur Google. Vous faites formulaire de réclamation Google, vous verrez, il y en aura plein. Vous écrivez, vous dites, voilà, moi, il y a cette page qui me dérange, elle parle de moi en bien ou en mal, mais en tout cas, je n'ai plus envie qu'elle soit là. Est-ce que vous pouvez la supprimer ? En général, Google va contacter quand même le propriétaire du site pour lui demander. S'il ne peut pas, très souvent, il la sort des résultats de recherche. Donc, la page existe encore, mais au moins, elle n'apparaît plus dans Google. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais ça prend du temps. Hein. Se nettoyer, enfin nettoyer votre vie aujourd'hui, bah, à part liquider tous vos amis ou tous les gens que vous avez croisés, ça va faire des balles. Hein. On n'est pas rendu au bout. Hein. Donc c'est non mais voilà, on n'a que ça. Il n'y a pas de secret. Voilà, ça c'était la fin. C'est juste que si vous voyez un truc rouge chez moi, vous le verrez de côté normalement en bibliothèque. Mais pour le coup, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions très rapides avant la fin, je suis ouvert. Oui, de toute façon, on pourra poursuivre là-haut. Il n'y a pas de souci. En fait, la notoriété, c'est typiquement ça. Quelqu'un qui la recherche, je dis bien, quelqu'un qui recherche la notoriété... Ah ben la discrétion, c'est ça. Avoir des pseudos différents quasiment partout, des mots de passe différents quasiment partout, pas forcément donner son nom sur le forum notamment, parce que vous savez, il y a toujours la présentation au début, il faut toujours se présenter, moi je m'invente une vie. Et puis voilà, vous voyez, c'est ça aussi la discrétion après tout. Hein. C'est, on peut s'inventer un nom et puis se dire, voilà, c'est pas, quand vous faites ça, c'est pas que vous cherchez à usurper ou autre, vous vous protégez, c'est tout. Vous savez que vous allez sur un forum pour une question, voilà, vous faites ça. Donc voilà, oui, c'est ça, typiquement.
D'autres questions ou on parle là-haut?
Oh ben, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal.
Si, quand même, voilà. Je suis sûre qu'il y a plein de passionnés, donc je me suis posé une question.